que ça jase en studio. Ça jase. Moi, je suis là, j'assiste j'assiste
solidarité.
À tout ça.
Solidarité! Ben oui. Pas content.
Ah non, c'est quoi? C'est la venue de Catherine Dorion dans nos studios qui a fait en sorte qu'on devient syndiqué, on devient une gang de communistes.
On ouvre un syndicat à Boulevard.
Oh, excuse-moi, j'ai fermé ton micro.
Tabarnouche, c'est-tu les patrons qui ont décidé d'interrompre la conversation?
Ils ont dit ça coûte trop cher.
Pas content.
Ils me disent baisse le micro de 50% de CV, ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir couper son salaire de 50%.
Ah, c'est de même ça marche?
Et voilà.
Vous allez me voir sacrer mon camp, ça. Ça prise petit temps.
Peux-tu monter ma slide un peu plus haut, s'il te plaît?
Ouais. Allez chercher plus ma
Hey, avez-vous une pensée pour Denis Gravel?
Oui.
Il se touche dans 25 minutes, hein?
Oui.
Ben.
C'est quand même malaisant. Il va tout vous raconter ça à 14 heures.
Ben, chanceux.
Je compte là-dessus. Ben oui.
J'ai tellement hâte, moi, d'entendre ça. J'en redemande. Ouais.
Parce que moi, je l'ai vécu. Là, lui, ça fait deux fois qu'il va le vivre, de ce que je comprends.
Mais
oui. Ben, la première, comme ça. Moi, la première, c'était moins gênant que ça, malgré le fait que c'était quand même assez gênant. Mais de savoir qu'à midi, pour le fameux pit stop, il sera pas là.
Il était occupé.
Puis pendant ce temps-là, il va être occupé. Ouais, c'est comme... on pourrait peut-être avoir un micro dans la pièce là-bas.
Ah, il se met en fiole, Zagassin.
Hey, il se met en fiole. Je voudrais jamais.
J'ai une question pendant que t'es là, Audrey, je vais en profiter.
La finale.
Jamais on nous a demandé de raconter nos expériences en gynécologie. Jamais on nous a dit, hey, il est tellement que tu reviennes en nombre pour me raconter.
Ça intéresse personne, ça.
Ah, je me demande pourquoi, Yannick?
Ça intéresse personne.
Parce que ça fait mal, c'est plate, c'est pour les femmes. Ouais.
On a des difficultés des fois. Il y en a qui sont violentées aussi physiquement dans ces examens-là.
C'est vrai, en plus.
Je regarde ma chum, là.
Tu te sens mal.
C'est comme les femmes qui nous regardent. Ah, vous n'avez jamais rien vécu de douleur, vous, les hommes, vous n'accouchez pas. Ben, savez-vous quoi? Vous ne savez pas ce que c'est qu'une une grippe d'homme si vous n'accouchez pas sans épidurale.
Yannick.
Ah, rien. Moi, je ne donne pas d'attention. Il y a Christian. Christian nous défend, Audrey, au 88-971-1021. Il dit déjà, mettons, je pense que c'est parce que tu te dis on va baisser son micro de 50%, donc on va pouvoir baisser son salaire de 50%.
Oui.
Puis il a dit hey, déjà qu'elle gagne sûrement 18% de moins au départ. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Christian nous défend.
Il y a beaucoup de choses à dire. Je veux juste dire qu'on vient de recevoir de Denis une photo.
C'est trop.
Il commence à s'installer.
Denis,
okay, montre moi la grosseur de la pompe. C'est une pompe à...
C'est une grosse éprouvette. Je pense que...
Okay. Moi, c'est pas ça que j'ai eu.
Ben non, mais c'est ça, toi, c'est parce que ta maison, c'est un pot de pharmacie.
Ouais, tu sais, les genres de
pilules. Pourquoi c'est pointu?
Les aspirines, c'est une fiole à l'envers. Elle tient sur le bouchon.
Ouais, c'est ça.
Kéké, wow.
Non, mais sérieux, t'as pas besoin d'avoir tant de visou que ça pour remplir ça au complet. Là.
Non, mais là, je veux dire, il y a certains de vos engins qui rentrent là-dedans. Certains de vos engins qui...
Ça rentre pas.
Il faut pas que tu rentres là-dedans, là.
Ça rentre pas.
Tu la cotes.
Le gars, il sort en panique. Je suis pris.
Il faut qu'il y ait l'urgence.
On va vous changer de département, monsieur. Allez vous asseoir à l'urgence.
Hein? Il y a comme un drap pendant qu'il est sa civière. Il y a comme un drap. Il y a juste une petite montée.
Ah, ça fera bon show.
Bonjour, c'est Gravel. Fait que Denis, il est là pour son spermogramme. Donc, ayez tous une pensée pour lui. Puis soyez là à 14h, il va tout vous raconter ça.
Mais chanceux.
Ouais. Merci, Mme Pinchot.
Oui, hey, bye, là.
Bye.
Je fais du temps supplémentaire, pas payé, moi, là.
T'as-tu été de bonne humeur, toi, ce matin, Pascal, quand t'as vu la nouvelle de Québécois sur la Société des alcools du Québec qui a annoncé des variations inhabituelles de prix qui vont impacter différents produits dès le 16 février prochain, en se traduisant notamment... curieusement, par une hausse sur le prix des bouteilles d'alcool à la SAQ.
Je vais répondre simplement si tu me demandes de répondre en tant que co-animatrice d'une émission d'actualité et non alcoolique soupçonnée par toi-même. Là. C'est quel genre de réponse que tu veux? Celle-là de ta co-animatrice?
Moi, je veux juste la vérité. Là. C'est 50 cents sur des bouteilles d'à peu près 15$, quoi qu'il y en a pratiquement plus.
Déjà, je suis de celles qui trouvent ça bien triste qu'il y ait un genre de monopole là-dessus. Autant pour tous ceux qui sont producteurs au Québec là, puis qui veulent démarcher, au Canada aussi qui veulent démarcher. Mais lui, ça fait 6 fois que je le vois aujourd'hui, je sais pas c'est qui.
Je sais pas, mais s'il nous écoute parler de spermogramme, il nous trouve vraiment ça bizarre.
Puis après d'alcool, c'est une gang de bizarres. Mais tout ça pour dire que je trouve qu'on paie déjà trop cher, puis ça laisse pas libre marché aux gens au Canada, au Québec, qui veulent se déplacer, défaire un peu des liens par rapport à la compétition ailleurs dans le monde. Mais quand tu t'en vas en Europe, tu t'en vas partout ailleurs, c'est pas ces prix-là. Fait que pourquoi est-ce que ça change autant et on n'est pas capable d'avoir de réponse? Ça, c'est un peu tannant, là.
Ouais. Ben, eux disent que c'est une demande du gouvernement, là. On veut donner plus de marge, donc d'argent au gouvernement du Québec. Donc, ce serait une demande des politiciens. Ils ont vraiment besoin de combler le déficit de 11 milliards. Puis vous pouvez être sûr qu'ils vont essayer de nous traiter comme si on était des vaches à lait. Donc, 50 cents sur une bouteille de 15 piastres et 2 $ sur une bouteille qui tourne aux alentours de 45 $
Je vais commencer à faire mon vin, Yannick. Je vais le faire moi-même.
Ouais, mon père faisait ça dans les années 80.
Ça devait goûter un peu la mort.
Il y avait comme genre une genre de secte du vin. Là. Mm-hmm. Puis il y avait des gens qui venaient pour voir son système pour faire du vin. C'était tout à fait légal, soit dit en passant.
C'était des gros galons pointus, là, comme un genre d'entonnoir
sur
le top. Là.
Avec des fils un peu partout.
Absolument.
Puis il faisait ça. Puis là, il y avait comme de la poudre, de la poudre de raisin.
C'est pour ça que t'es de même maintenant. Semi-aveugle et mentalement affecté.
Puis après ça, il sortait ses bouteilles. Puis là, il en distribuait à ses amis. C'était. Il y en a-tu encore qui font du vin?
Ben, sais-tu quoi? Ils l'apportent tout le temps dans des soupers d'amis, mais ils boivent tout le temps le vin acheté. Ceux qui font
c'est
du vin,
donc bien intelligent,
ils donnent toujours en cadeau, puis ils boivent tes sapristis de bouteilles qui sont assurément bonnes et non qui te rendent aveugle.
Ouais, j'avais un chum crosseur dans le temps. Mm. Écoute ça, Audrey.
Crosseur du genre comme avec Denis aujourd'hui? Ou...
Crosseur, OK. Lui, il achetait des bouteilles à 12$. Écoute, je vais probablement me rappeler de la bouteille qu'il achetait, mais c'était une bouteille à 12$. Il en achetait peut-être une dizaine. Puis après ça, il allait se chercher un vin de qualité à la SAQ. C'est un bon vin de qualité. Puis après ça, ce qu'il faisait, c'est qu'il buvait la bouteille de qualité et il transvidait la fameuse bouteille à 12$ dans la bouteille de qualité. Puis après ça, il allait à sac puis il disait... Ça goûte pas bon, ça goûte pas la même chose que d'habitude. Puis bien souvent, il posait même pas de questions, puis il remplaçait la bouteille. Puis il y a eu quelques fois où il y a des personnes qui l'ont goûté, puis on se dit, ben oui, c'est vrai, ça goûte pas, ça goûte bizarre. Il y en a qui sont vraiment intelligents.
Hey, mais
il
faut que tu sois poussé. Là.
Mais c'est
pas
parce
que Mané
s'en rend compte, par exemple.
Mais c'est-tu un crime, crosser des crosseurs?
Oh, Yann! Je vais te répondre oui pour la simple et bonne raison de ta conscience personnelle. Mais tu fais ce que tu veux au final.
C'est un crime, crosser des crosseurs?
Ben, au final, oui. Oui. Est-ce que ça fait du bien de savoir que certains crossent les crosseurs?
Ouais.
Il y a peut-être une certaine satisfaction.
J'ai eu en entrevue dans mon ancienne vie radio un gars qui faisait du gin, Pascal. Puis il avait envoyé son produit à la SAQ et il avait reçu une lettre comme quoi son produit n'était pas encore assez cher et devait le mettre, exemple, il était à 4 $ fallait qu'il le mette à 5 $ pour vendre à la SAQ pour qu'eux puissent mettre leur marge de profit pour que ça puisse à peu près fitter dans les autres produits du même type. Donc, tu comprends que lui, il vendait moins cher. La SAQ a dit « Non, il faudrait que tu nous le vendes plus cher. » Il est obligé de vendre une pièce de plus.
Pour qu'eux fassent un profit supplémentaire.
Pour qu'eux fassent un profit supplémentaire puis qu'ils s'embarquent dans leur gamme de prix à eux autres.
C'est pour ça que je te disais ça en ouverture.
Ben
c'est
ouais.
qu'ils effondrent la compétitivité de cette manière-là, mais ils gardent le monopole. Puis ça, tu vois ça nulle part ailleurs. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs dans le monde, là.
Hey, tu sais, t'es en Europe dernièrement, t'as des bouteilles à 5, 6, 7, 8 $ de qualité.
Très bonne, surtout quand tu la partages.
Mais il y a des gens qui t'arnaquaient comme ça.
Non.
Non?
Comment?
En amenant une bouteille vraiment cheap, en la buvant pas, puis en buvant ton vin à toi?
Bien, les gens qui font du vin sont bien contents de t'en apporter pour l'écouler, là, justement, là, ce barrique-là. Mais là, ils sont comme « Ouvrez-la pas tout de suite, gardez-la plus tard, pour
c'est
vrai, puis vous allez pouvoir en profiter, c'est un cadeau. »
Ça va valoir cher plus tard. Hey,
c'est un cadeau empoisonné.
Ça va être correct, Stéphane.
Mais je suis sûr qu'il y en a que ça doit être du vin qui est buvable.
Ben,
j'en suis persuadé.
Oui, il y en a qui réussissent bien, mais... Jamais, pour vrai, jamais au point où un vignoble a réussi sa batch, là.
Non, c'est ça.
Tu sais, il y a d'excellentes bouteilles à 10, 12, 15 $ là.
Ouais.
Il y en a à 40, 50, 60 qui sont overrated, qui valent pas ce prix-là en SAQ parce que justement, les marges sont trop grosses par rapport à la production.
Ouais. Moi, j'ai toujours bien aimé Phil Lapéry là, comme chroniqueur vin parce qu'il a tout le temps été chercher des vins qui coûtaient pas si cher que ça puis qui étaient vraiment buvables. Puis parfois, tu te disais, tabarouette, c'est un vin que j'apprécie puis pourtant, c'est moins cher que la bouteille que j'achète d'habitude que j'apprécie. Phil Lapéry a cette force-là. Bon, dans les buts, comme gardien de but, il n'y a pas vraiment de force. quoi que lui puisse en penser.
Bien sûr, on ne peut pas envoyer que des fleurs à quelqu'un.
Mais comme chroniqueur vin, oui. Quand je tombe sur une chronique de Phil Lapéry, je suis tout le temps très attentif content. Parce qu'il est tout le temps target. Là. Puis il ne va pas chercher des bouteilles à 200$, 300$.
Colosse qui nous écrit que dans le temps, faire du vin, ça avait quelque chose de très agréable. Au moment où tu revenais à la maison après bar, tu ne goûtais plus grand-chose, mais si tu voulais continuer l'after, ça ne coûtait pas cher.
Ah, c'est les maux de tête, les sulfites aussi, c'est ça, les sulfites.
Oh, oui, moi, c'est très tough. Je sais pas pour les gens là, qui nous écoutent, là, mais quand je travaillais tôt le matin où j'avais un horaire atypique, je pouvais prendre une coupe de vin blanc. Je buvais rarement parce que je le sentais le lendemain là, quand tu n'as pas d'heure de sommeil dans le corps, mais tu prenais une coupe de vin blanc et tu prenais une coupe de vin rouge, mettons, une autre journée. Le vin rouge même à une coupe le lendemain, là, ta tête est embrouillée.
Ah ouais.
Ça, moi, en vieillissant, ça me fait de l'effet, mais j'adore ça encore. Sauf que si j'ai à me lever tôt, oublie-moi.
Ouais. Il y a eu la fameuse mode, là, il y a de ça quelques années, de les vins un peu plus de qualité qui arrivaient chez Couche-Tard.
Hein?
Ouais.
Ben, j'ai... Merde. Là, je fais vraiment bourgeoise, mais j'ai aucune idée de quoi tu parles.
J'habitais à Lévis à ce moment-là. Fait que c'est autour de 2010, 2011, 2012 dans ce coin-là.
Puis mais c'est avait... des sections SAQ qu'il y avait au Couche-Tard,
mettons? Non, c'était des vins... qui étaient, c'était pas des vins de grosse qualité, là, mais c'était des vins qui étaient buvables, okay. Qui étaient chez Couche-Tard. Je sais pas si ça existe encore, mais moi, j'ai acheté des deux, trois bouteilles-là. Je m'en rappelle plus.
Ça prend pas ça.
Mais c'était correct. Sinon, quand je vais chez Métro, là, la section vin, je vais jamais là.
J'achète jamais en épicerie à part pour cuisiner.
Mais bref, la SAQ va émettre des hausses sur le vin. Oui. On dit que c'est surtout les produits qui viennent de la France là, qui vont être hypothéqués sur les hausses de prix.
En pleine période où on devrait s'associer avec l'Europe, parce qu'on est contre les tarifs douaniers des Américains, il va falloir aller s'acoquiner, disons-le comme ça, avec les Européens pour s'assurer, on décide de mettre une taxe de plus, un montant de plus sur les vins français. Je trouve que c'est tellement pas réfléchi, là. Parce que tu vas en acheter moins. Si le vin commence à être plus cher, tu vas changer de regard sur ta bouteille. Tu vas aller plus vers les États-Unis. Mais la conclusion positive qu'on pourrait aller là, avoir là, en ce moment, là, l'horizon qu'on devrait regarder, là, c'est vraiment avec nos cousins européens pour s'assurer d'avoir un genre de collaboration commerciale comme on avait avec les États-Unis.
Là, le vin des États-Unis, parce que moi, je bois du vin des États-Unis, là, principalement de la Californie, est-ce qu'il va y avoir une modification des prix? Parce que la SAQ ne semble pas avoir touché au prix actuel. Il semblerait que c'est samedi que ça devrait se passer, là, la fameuse surtaxe de 25% de Donald Trump. Ça va-t-il avoir un impact sur les vins qu'on va acheter à la SAQ. Puis on nous dit que le 1er mars, les produits qui sont consignés, ceux qui sont achetés par la SAQ en dollars américains et certains produits de producteurs ou d'embouteilleurs québécois devraient subir un second ajustement de prix dont la hauteur n'a pas encore été précisée. Ça va être une demande du gouvernement encore.
Mais tu sais, je me suis posé la question à un moment donné, Yannick. Nous, on a-tu autant d'efforts pris sur notre alcool parce qu'ils veulent dissuader les gens d'en boire beaucoup? Mais en même temps, pour moi, c'est même pas une raison. Je trouve que c'est parler dans le vide parce que effectivement, t'en as à l'épicerie, t'en as au dépanneur, tu vas te gosser quelque chose si tu en veux moins cher. Fait que ça devrait, en fait, revenir à la loi du marché, pas à ce monopole-là. Si tu m'avais dit est-ce que ça fonctionnait dans l'analyse, c'est parce qu'on veut que les gens n'aient pas une accessibilité tempête sur l'alcool. On ne veut pas commencer à vendre ça à 2, 3, 4 $. C'est pas dans notre culture, nous autres, le vin comme en Europe, où ils se contiennent, pour certains, un peu plus que... T'sais, on veut pas amener une consommation plus haute avec une baisse de prix quand on a toujours connu des prix plus hauts auparavant. Ça se tiendrait même pas, un argument de même. C'est vraiment juste pour aller mettre de l'argent dans les coffres, là?
Non, c'est des vaches à lait. Les Québécois sont la vache à lait du gouvernement. Ils vont le faire avec l'électricité. En 2035, on va dépendre uniquement de l'électricité pour se promener à la grandeur du Québec. Ils vont le faire avec... Puis pour ceux qui vont faire énormément de kilométrage avec leur véhicule à électricité, là, il va y avoir aussi une taxe kilométrique, Pascal, parce que pour moi, quand j'achète de l'essence, il y a plus de 50 cents sur une pièce qui vont en taxe. Il va falloir trouver cette taxe-là quelque part. Fait que ça va être une taxe kilométrique. On va dépendre que du gouvernement. C'est pas de l'économie, ça.
Trouver les produits les plus consommés, où est-ce que tu peux aller mettre une taxe puis t'assurer d'avoir une rentabilité, mettons, au gouvernement, oui. C'est de l'économie, c'est sûr. Mais de cette manière-là, c'est du profit.
À ce moment-là, taxons juste les Québécois, puis arrêtons de faire venir des entreprises d'ailleurs pour pouvoir leur faire payer de l'impôt.
Avec ce que j'ai dit, ma limite s'arrête à... Voilà. Ils font pas d'efforts pour diminuer leurs coûts à l'interne et leurs dépenses à l'interne. Mmh. Ils vont juste essayer de colmater sur nos produits avec des taxes supplémentaires, puis c'est là où je trouve ça problématique.
Peut-être trouver d'autres sources de revenus que les individus en soi à l'intérieur de la province, ce serait une bonne idée.
Commencer à se serrer la ceinture par
aujourd'hui,
eux-mêmes.
On aura le plaisir de renouer avec Éric Duhaime qui amorce son grand retour depuis sa crise cardiaque. Donc, on va avoir Éric Duhaime vers les entours de midi. Denis qui va être absent pour le pit stop. Donc, c'est Éric qui va être avec nous. Normand Voyer, chimiste de l'Université Laval, un gars qu'on aime bien, qui va venir nous parler de la chimie de l'hiver. Vous n'avez pas idée à quel point il va être intéressant. Si vous ne l'avez jamais entendu, je vous invite à rester avec nous. Et Pat Raymond va être là pour nous expliquer comment fonctionne le REER, toutes les autres trucs qui peuvent nous permettre de payer moins d'impôts. Donc, il sera vers nous, avec nous aux alentours de 13h. Sinon, il reste à vrai 3-4 minutes, Pascal. Y a-tu des grosses nouvelles aujourd'hui qui t'ont marqué?
Sérieusement, ça m'aurait pris un 10 facile.
On va le faire à partir dans l'heure de midi.
Premièrement, manifestation des agents correctionnels. Prison de Québec, on est dehors, solidarité, on en parlait en ouverture de show, mais quand même, on a ras-le-bol face à la négociation de la convention collective. Ça piétine, ça fait près de 2 ans. Donc, on est sorti aujourd'hui. Mathieu Lavoie, il est président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Vous l'avez entendu souvent sur nos ondes. C'est un gars à qui on parle de façon quand même assez serrée. Il dit, on veut être compétitif parce qu'on est en train de perdre notre monde. On n'arrive pas à retenir notre monde pour plein de raisons, dont la sécurité de nos agents. On est en pénurie de main-d'œuvre en plus, puis s'en vont au profit des corps policiers ou encore comme agent correctionnel fédéral. Donc, cette personne-là qui transige du provincial vers le fédéral, on la perd malgré tout. Puis, il dit que ça pourrait être énormément différent si simplement la sécurité était renforcée. Beaucoup encore d'objets saisis juste lundi. On parle de 19 cellulaires qui ont été saisis dans un secteur dédié aux Hells Angels à l'intérieur même des murs de la prison à Saint-Ville. J'ai trouvé ça poignant, c'est très bien fait. Ils ont mis une grosse pancarte pour leur manifestation. Ils ont écrit « Bienvenue à l'aérodrone d'Orsainville », en voulant dire « Tous vos drones, vous pouvez les faire atterrir ici, ça fonctionne ».
Ça, tu vois, ça, j'adore ça.
Très bon.
Le message
part,
est passé. Puis, si je ne me trompe pas, on avait une photo aussi avec. On avait transformé François Bonnardel en courtier immobilier.
Oui, absolument. Oui. Fait que c'est assez poignant. Ils font très bien leur manifestation en ce moment. Mais si vous avez à vous promener dans le coin, c'est ce que vous allez voir, les agents correctionnels qui sont en manifestation. La menace de taxes tarifaires de Trump, ben, il y a 3 missions de Bruno Marchand qui sont à venir. Une, entre autres, à Ottawa, d'autres aux États-Unis. Le maire fait une tournée économique, diplomatique. Il veut faire valoir les intérêts de sa ville. On va pouvoir en parler un peu plus demain avec Valérie Gaudreau qui va être de passage sur nos ondes, là. Mais quand même, on veut multiplier les missions. On veut se déplacer. On veut aller jaser. C'est ce que souhaite faire le maire de Québec, Bruno Marchand. On veut rappeler aussi l'importance des villes dans cet écosystème-là économique. Donc, on n'est pas juste des petits détails. On est partie prenante de tout ça. Et on va aller jaser avec les homologues. Ça se passe aussi du côté du fédéral. Ottawa a préparé un plan d'aide financière de plusieurs milliards de dollars présenté par Jean-Yves Duclos.
Merci beaucoup. Ce soir, sur les zones de RDS, eh bien, c'est le Canadien qui affronte les Jets de Winnipeg. Le match débute à 19h. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis. Ça fonctionne par texto.
Oui, puis effectivement, le fils de Justin Trudeau fait du rap. Maintenant, on en reparle un peu plus tard. C'était dans le bulletin, mais je l'ai comme à la fin, je trouvais que c'était pas essentiel. Puis surtout quand t'as écouté, c'est quoi? Ça me pique.
Marceau le midi. Midi de 2 minutes, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci d'être là. Mon nom, c'est Marceau. Son nom, elle, c'est Pascal CV. Denis Gravel est absent pour le pit stop. On va en parler dans quelques minutes, mais Denis qui est occupé à faire autre chose pendant le temps qu'on vous jase.
Un testeur aujourd'hui.
Oui, il est en train de faire un spermogramme, c'est
oui.
Ça? Voilà. Il va vous raconter ça vers les alentours de 14h. C'est moins 16 degrés sur Québec avec le refroidissement éolien. Oh boy, c'est une température ressentie de moins 27. Au moins, c'est plein soleil aujourd'hui. Quelques nuages pour ce soir qui devraient s'amener. Minimum de moins 22 avec le refroidissement éolien. Ça va être une température ressentie de moins 31. Mercredi, demain, ce sera nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige en après-midi avec un maximum de moins 12 degrés. Pour nous joindre en studio, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. 581-1021. On a-tu notre micro dans la salle où Denis est actuellement?
Non, puis il n'a pas commencé son Facebook Live. Là. Il est supposé de partir ça sur la page Facebook de BLVD dans pas si longtemps.
Ça va être de toute beauté à entendre dès 14h. Pour l'instant, on reçoit le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui est de retour dans ses fonctions après avoir été victime d'un infarctus le 6 décembre dernier. Salut Éric!
Salut Yannick!
Merci d'être avec nous. Commencez le retour
Salut,
au boulot.
Salut Éric!
Bonjour! Ben écoute, commencez, c'est... Je suis content parce que ça fait 6 semaines que je suis habitué un peu dans mon coin. Parce qu'un infarctus, là, pour ceux qui ont déjà vécu ça, là, vous savez que sur le coup, c'est très foudroyant. Là. Moi, ça a été particulièrement foudroyant. Mais 24-48 heures après, un coup que tes artères sont débloquées, un coup que tu as des espèces de tuteurs qui sont installés dans ton cœur, tu te sens même mieux qu'avant. Donc, mais il faut quand même que tu donnes le temps à ton cœur de s'ajuster à la nouvelle réalité. Donc, ouais. Faut que t'attendes. Mais tu te sens très, très bien. Fait que j'ai pas de, tu sais, je me sens extraordinairement bien, mieux que même avant. Mais il fallait quand même que j'attende là, que les médecins me donnent le go pour pouvoir reprendre mes fonctions totalement.
C'est le seul logo que t'as voulu, hein?
C'est ça.
C'est très bon. Mais je te félicite d'avoir sorti dans les médias pour dire exactement ce qui t'était arrivé. Parce qu'on a toujours une tendance à penser que les gens qui peuvent faire des infarctus, c'est des gens qui sont en surpoids, alors que toi, tu sembles être top shape, là.
Mais non, écoute, je suis un gars qui a couru 12 marathons. J'ai pas de problème de surpoids. J'étais actif. Même la journée où ça m'est arrivé, j'étais au gym. J'ai pas, je fume pas. Je
Quand ça a
pas
commencé, Éric, t'étais au gym? Parce que je trouve ça important de dire où t'étais, comment ça a commencé. Okay. Parce qu'il y a des gens qui le vivent à la maison puis ils meurent. Mais quand t'es dans un endroit public, ça te sauve la vie.
Quand ça a commencé, au gym, ce qui est arrivé, c'est que je suis allé à 2h de l'après-midi, je suis allé au gym, je suis allé m'entraîner. Puis comme à toutes les fois que je veux m'entraîner, je fais toujours un peu de cardio pour commencer. Fait que j'ai couru sur le tapis un peu. Puis après 5 minutes, je me suis senti comme le sternum chauffé. Puis là, je me suis dit, ah, c'est parce que j'ai dû dîner trop tard, puis je suis pas encore tout géré. Fait que j'ai arrêté, puis j'ai été faire juste de la musculation. Et là, mais j'ai pas eu d'autres symptômes. Puis le soir, à 10 heures, je me suis couché. Donc, j'étais pas, tu sais, les gens qui disent, là, c'est en train de pelleter. Puis ça, oui, il y a des gens là, qui ont, surtout l'angine de poitrine, ça arrive quand tu fais des efforts. Là. Mais moi, j'étais pas du tout en situation d'effort. J'étais couché dans mon lit. Et là, j'ai eu la boule de feu au sternum. Là, c'était infernal. Puis je pensais encore que c'était une indigestion. Mon chum m'a donné 2 antacides. Ça a absolument rien changé. C'est devenu de pire en pire. Là, je me tordais de douleur à terre. J'en pouvais plus. Il m'a donné 2 aspirines pour enlever la douleur. Puis c'est probablement ça qui m'a sauvé la vie. Parce que l'aspirine, ça éclaircit le sang. Puis ça a permis à une partie du sang de pouvoir circuler à l'intérieur de mon cœur. Et de me donner le temps de me rendre à l'hôpital. Parce que là, j'étais rendu, j'avais tout le côté gauche engourdi. Et puis à un moment donné, même j'avais de la difficulté à respirer. Mais j'ai fini par arriver à l'hôpital. Dès que je suis arrivé à l'hôpital, tout de suite, ils ont vu les symptômes, puis ils m'ont médicamenté, ils m'ont mis le sérum, etc. Là, j'étais pris à temps. Donc, puis le matin même, j'étais en train de faire une intervention. Là, ils m'ont rentré une espèce de tube dans le poignet. Puis avec ça, ils rentrent des ballons dans chacun des artères. J'avais 3 artères de bloquer. Mais ils rentrent le ballon pour t'ouvrir les artères du cœur.
OK.
Après ça, ils vont mettre les petits tuteurs, des espèces de petites affaires en métal.
Là. C'est un spring.
Comme un spring pour tenir les 3 artères ouvertes pour pas que ça referme. Mais ça a l'air bien épouvantable, là, mais moi qui ai, j'ai peur d'une prise de sang, là. Mais ça a été super bien. J'ai été conscient tout le long. Puis la façon dont c'est fait, t'es sur une table, puis d'un côté, t'as des écrans géants, puis tu vois tout, puis j'ai eu la chance d'avoir un cardiologue qui m'expliquait exactement ce qui se passait. Fait que je voyais tout, je voyais mon cœur, je voyais...
Tu suivais ça au fur et à mesure.
Oui, c'est comme de la science-fiction, là. Puis d'un côté, t'as les infirmières, puis les médecins, puis de l'autre côté, t'as les écrans géants. Puis il m'avait mis de l'iode là, pour que les couleurs, pour qu'on voit bien le cœur, ce qui se passait.
Mais t'étais, c'est sûr, sur médication parce que je me souviens, Yannick, parenthèse, quand je travaillais avec Éric, à un moment donné, on avait fait une campagne de dons de sang. Je sais pas si t'en souviens, Éric.
Ben oui, je m'en souviens.
Moi, je parlais en live, puis j'ai dit aux infirmières, je vais faire une joke à mon collègue en onde. Puis j'ai fait semblant que je m'évanouissais et Éric se met à paniquer en onde. monde. C'était un des meilleurs moments de ration que j'ai vécu.
Bien d'être ça, hein?
Puis t'as failli t'évanouir parce que c'est vrai que t'as peur du sang, des prises de sang.
Mais t'as vécu le système de santé de l'intérieur. T'sais, on critique beaucoup le système de santé pour y avoir accès quand t'attends à l'urgence pendant 8 heures. C'est paniquant. Puis là, après ça, ils te font franchir la porte puis t'es quasiment 48 heures sur une civière avant de monter sur les étages. Toi, devant l'urgence, t'es monté très rapidement puis tu t'es aperçu à quel point les gens qui travaillent dans ce système-là, c'est des gens de cœur.
Ben oui, écoute, c'est moi j'ai été, ils m'ont sauvé la vie là. Les gens extraordinaires, ultra dévoués, puis qui sont victimes eux autres aussi. Faut pas l'oublier là, de l'inefficacité du système. Parce qu'eux autres aussi, c'est les espèces de ils sont envoyés là comme des chiens d'un jeu de quilles là.
Ça a-tu changé ta perception, Eric, justement? Est-ce que tu penses que tu vas faire de la politique autrement quand tu vas parler du système de santé en ayant vécu ça de l'intérieur?
Peut-être que effectivement, on parle pas assez des gens qui travaillent puis qui subissent ce système-là. Faut en parler davantage. Mais tu sais, j'ai vu aussi de l'autre côté. Là, tu sais, quand je arrivé à l'urgence, là, c'était encore des espèces de paravents là de l'époque COVID là, avec du gros plastique puis avec des 2x4 là. Puis c'était pas tout était propre. Puis c'était pas, tu sais, je veux dire, il y a des gros problèmes de système de santé. Là, c'est pas normal qu'un système qui est aussi bien financé avec l'argent des contribuables soit aussi dysfonctionnel à plusieurs égards. Mais on peut pas blâmer le personnel. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et là, regarde, on crée encore des agences, on crée encore des structures, on embauche en plus des consultants, mais on est en train de couper les services aux gens. Moi, l'hôpital où j'étais, là, ils vont avoir une coupure parce qu'il y a 1,5 milliard qui va devoir être coupé dans les prochains mois là, dans le système de santé au Québec. Eux autres, c'est 70 millions. Les médecins me disaient, Éric, c'est impossible qu'on coupe pas les services à la population. On peut pas couper... comme ça, on est rendu à l'os.
Ouais, ben juste donc, en fin de semaine, ils ont coupé des postes d'infirmières en Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, par l'entremise des médias de Québécois, on apprend que c'est la capitale nationale qui est touchée. Là, on nous mentionne que c'est des postes qui étaient vacants, qu'on abolit, mais veut pas, à un moment donné, on va en venir à couper les infirmières directement sur le terrain.
Ben oui. Puis tu sais, ils disent on coupe les postes qui sont vacants, mais s'ils sont vacants, c'est parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était là. Là fait que c'est une coupure. Là. C'est juste qu'ils sont pas obligés d'annoncer à quelqu'un qui le congédie. Mais c'est ça qui est plate. Puis pendant ce temps-là, ils embauchent des top guns à 300-400 000 $ par année, puis ils font un gros comité, puis ils embauchent des consultants pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire.
C'est ça qui est décourageant. Éric Duhaime, la surtaxe de 25% de Donald Trump qui devrait rentrer en place le samedi là, qui s'en vient. Donc on aura un 25%. Ça laisse craindre le pire pour ce qui est des exportations puis des importations, parce que là, il y a une guerre qui va s'entamer. Danielle Smith, qui était très proactive, elle voulait sauver son industrie du pétrole. Elle voulait sauver de la péréquation du Québec. Fait qu'elle a décidé d'aller rencontrer directement Donald Trump sur place. Nous autres, on a un premier ministre qui a décidé d'écrire une lettre. Assez particulier quand même, là, devant la situation qui est extrêmement critique. Là.
Écoute, c'est sûr que c'est une situation qui est très critique. Il faut éviter justement de se chicaner et de faire de la politique au Canada et de se diviser. Il faut être unis présentement. Puis d'abord, il faut réaliser que les Québécois, là, peu importe qu'on soit souverainiste, fédéraliste ou autonomiste, là, on a besoin du Canada. Okay? Il faut notre principal partenaire, là, c'est le Canada. Puis il faudrait surtout pas. Puis je pense que le PQ devrait peut-être même mettre sa glace là, tous les débats sur l'indépendance. Puis l'idée d'un référendum à court terme. Là, je pense que là, ce qui est important, là, c'est qu'on conserve d'abord et avant tout le marché canadien pour la sécurité économique des Québécois. Là, c'est la chose à faire. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. La deuxième chose, c'est qu'il faut se solidariser avec le reste du Canada. Il faut parler d'une seule voix. On est dans une situation de faiblesse présentement. Vous savez, on n'a même pas de premier ministre au Canada. On a un premier ministre démissionnaire, puis on a des prétendants libéraux, dont un qui va risque de gagner, qui n'est même pas élu. Donc, il y a un gros défi pour le Canada, là, et il va falloir se serrer les coudes à ce niveau-là. Puis il va falloir aussi tirer des leçons pour l'avenir, que se rappeler qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Tu sais, au cœur de ce débat-là, tu viens de le mentionner, tu viens de parler de la première ministre d'Alberta, là. Il y a beaucoup l'enjeu de l'énergie puis des ressources. Et au Québec, là, on a beaucoup craché là-dessus. Hein. On a laissé les gens en pain. On a empêché un projet comme GNL au Saguenay d'investir 14 milliards. On a empêché les entreprises à qui avaient des droits d'exploiter du gaz naturel au Québec, alors qu'on a la plus grosse réserve non exploitée au monde. On a empêché aussi un pipeline qui vient de l'Ouest de traverser le Québec pour qu'on puisse exporter le pétrole canadien à l'extérieur des États-Unis puis du continent nord-américain. Donc, à un moment donné, il va falloir que toutes ces décisions-là qu'on a prises, on les revisite. Là. Je pense que si on veut faut sortir de cette crise-là là, plus fort. Ouais. Et la façon de sortir plus fort de ça, c'est que stratégiquement, on contrôle notre industrie au niveau gazier puis pétrolier. Et j'espère qu'on va faire les choses appropriées. Puis ce que je trouve triste, c'est que présentement, à l'Assemblée nationale, là, ce que je viens de dire là, il n'y a pas un député qui va dire ça parce que les 125 ne pensent pas comme la majorité des Québécois sur ces enjeux.
Mais Éric, le mur s'en vient, on va devoir le frapper. C'est sûr que 25% qui va arriver samedi, ça va être le début des négociations, puis tout le monde va essayer de faire des concessions, puis d'essayer d'améliorer les choses. Puis en bout de ligne, ça va peut-être être 15, ça va peut-être être 10, mais ça va être dramatique pour le Canada, puis particulièrement aussi pour ce qui touche les gens chez nous, tu sais. Un François Legault qui voit Amazon partir, puis qui dit, bon, ben moi, j'ai pas bu mon jus d'orange, puis le Canadien a gagné hier, tout va bien. J'ai trouvé ça très cheap de sa part. Oui. On n'est pas grillé en premier ministre, là.
Mais premièrement, comment ça se fait que Amazon, OK, ils vont congédier 3500 personnes au Québec? Pourquoi? Puis on dit tout, bon, OK, c'est parce qu'il y a une usine à Laval de 200 employés qui est devenue la première du continent à se syndiquer, puis Amazon ne veut pas ça. Puis il faut se demander pourquoi les syndicats ont ciblé puis ont choisi le Québec pour essayer de faire une brèche chez Amazon puis d'essayer d'infiltrer Amazon. C'est parce que nos lois au Québec sont les plus pro-syndicats puis les plus anti-entrepreneurs. Faut jamais oublier ça, là. On a des lois du travail au Québec beaucoup plus favorables aux syndicats puis beaucoup moins favorables aux investisseurs, aux entrepreneurs. Et ça, il va falloir qu'on aussi on revise ça, là. C'est pas normal. T'sais, les États où Amazon ne fait pas de business, là, c'est Cuba puis la Corée du Nord. Il y a personne qui se demande pourquoi, là. C'est parce que ces endroits-là, c'est des endroits qui sont pas ouverts aux investissements, qui sont pas ouverts aux gens qui font des affaires. Donc, moi, je veux qu'un Québec, là, on soit une terre d'accueil pour les investisseurs, pour les entrepreneurs, pour les gens qui se retrouvent sous les branches puis qui créent de l'emploi. Pas un exemple de syndicat qui fait fuir les capitaux. Puis malheureusement, présentement, là, quand François Legault a demandé conseil pour ce qui se passe avec les tarifs, il est allé rencontrer Magali Picard, la leader syndicale de Mme Dubaï, là, du plus gros syndicat au Québec. Pareil, comme si c'était ça la solution pour essayer de sortir d'une situation de crise, alors que pour moi, c'est ces gens-là qui sont en partie responsables de la crise dans laquelle on est.
Puis c'est de voir l'anti-américanisme dans les journaux de Québécois, de la presse, Le Devoir. On a tous vu ça passer là, dans les derniers jours. Puis tout d'un coup, aujourd'hui, hey, by the way, on a des entreprises québécoises comme Alex Coulomb, là, le Pepsi, là, Pepsi qu'on a ici. Ouais, c'est des gens de Québec, ça, qui emploient des gens de Québec. Là. Le boycott, si on continue à appeler au boycott des Américains, ça se peut qu'on soit touché au Québec. C'est weird comment on est réactif. Puis je ne sais pas si c'est du militantisme ou de l'activisme de la part des journalistes ou c'est juste émotif, mais ça n'a comme pas de bon sens. Si moi, je commande quelque chose, puis ça vient d'Amazon, exemple, bien, c'est un entrepreneur québécois qui va venir le livrer chez nous. Là, tu sais, c'est lui, là, c'est un salaire. La gang qui travaille chez Pepsi, c'est un super employeur. Bien oui, l'entreprise est américaine, mais les gens qui travaillent ici chez nous, c'est des Québécois. Pourquoi leur nuire, tu sais?
Les chips aussi, ça arrive sud, là, matin, donner l'exemple. Je veux dire, c'est plein. C'est que nos économies sont interdépendantes, puis tout est interrelié. On n'a aucun intérêt à partir d'une guerre commerciale avec les Américains. Puis les Américains non plus n'ont pas intérêt. Là. J'espère qu'ils vont s'en rendre compte plus tôt que tard. Là. Mais je veux dire, on a une économie qui est très intégrée. Et c'est triste de penser que de parler de ça. Moi, c'est pour ça que j'ose même pas parler de ce qu'il faut faire par rapport à, tu sais, moi je continue à boire mon jus d'orange, là. Je commencerai pas à jouer à ce jeu-là. Là. Mais non, mais c'est parce que c'est une pente glissante. Là. Si on commence à jouer à ça, là, on se mettra pas à boire juste du sirop d'érable. Là. Il faut réaliser que on a intérêt à faire la promotion de nos idées puis du commerce entre nos États et pas essayer de se replier sur nous-mêmes. Puis c'est ça qui est en train de se produire présentement. Puis moi, c'est quelque chose qui me fait très peur. Et j'espère qu'on va tirer les leçons. Puis l'autre affaire aussi, qui est un peu épeurante, Yannick, là, c'est que Donald Trump, là, il fait tout ça pourquoi? Parce qu'il veut se servir de cet argent-là pour réduire les taxes et les impôts des contribuables et des entreprises américaines. On est déjà au Québec l'État le plus taxé et le plus imposé du continent. Si les Américains commencent à faire ce que Donald Trump... effectivement, le réalise ses engagements, là, ça veut dire que l'écart va se creuser, on va être encore moins compétitif au niveau de nos entreprises et au niveau de nos travailleurs. Là. Donc ça aussi, il va falloir qu'on pense que la solution, là, c'est pas de continuer à empiler des déficits historiques comme on fait présentement, c'est de commencer à baisser le fardeau fiscal des travailleurs et leur laisser plus d'argent dans les poches, parce que sinon, les entreprises n'auront plus d'intérêt à venir ici, puis il va y avoir de plus en plus de gens qui vont choisir d'aller s'établir ailleurs.
Ouais. Continuons d'être un peu chez nous à Québec. On a deux sujets, on dirait depuis 10 ans à peu près. C'est le troisième lien puis le fameux tramway. Il semble débuter une guerre entre Geneviève Guilbeault puis Ottawa concernant le financement du tramway. Est-ce que la CAQ essaie de sauver du temps ou d'étirer peut-être la sauce le temps que Pierre Poilievre rentre en poste? Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Est-ce que le Parti conservateur surveille ça de près? Qu'est-ce que vous proposeriez? Parce que là, si Pierre Poilievre décide de ne pas payer pour le tramway, ben c'est la province de Québec qui va payer la part du Canada, puis on va avoir la ville de Québec aussi qui va devoir augmenter sa part pour payer le tramway, là.
Écoutez, là, les contribuables de la Ville de Québec puis du Haut-Québec ont pas les moyens de payer un tramway qui va coûter 12, 13, 14 milliards. C'est pas plus compliqué que ça. Le fédéral ne mettra pas une scène, vous le savez. Pierre Poilievre le dit de façon très, très claire. Puis même là, présentement, les libéraux à Ottawa hésitent à faire des chèques. Effectivement, on voit que l'argent rentre au compte-gouttes. Il leur avait promis 1,4 milliard, puis l'argent rentre pas pantoute. Donc, je veux dire, il y a personne qui veut annoncer la mort de ce projet-là, mais c'est un mauvais projet qui a pas d'acceptabilité sociale, où la population de Québec est majoritairement contre, qui est trop cher par rapport à ce qu'on a besoin, qui va pas accélérer le temps de transport en commun dans la région de Québec, mais il y a pas un politicien qui a le courage de dire on tire la plug et c'est terminé. Tout le monde essaie de prendre le singe puis de le mettre sur les épaules de l'autre, et c'est triste, mais c'est ce qui se passe présentement. Puis comme pour revenir à ce que tu me disais au début, j'ai l'impression que c'est un peu ça. La CAQ veut pas l'annoncer elle-même, fait qu'il essaie de mettre le singe sur les épaules du gouvernement fédéral, c'est de savoir qui va annoncer la mauvaise nouvelle. Mais quant à moi, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, puis le plus tôt qu'on l'annoncera, le mieux ce sera.
Je ne sais pas si tu as regardé ça passer, là, les menaces envers Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui. J'imagine qu'en tant que politicien, puis même en tant qu'animateur de radio du temps où tu faisais la belle vie à Québec, tu en as eu des menaces. Moi, pour les politiciens, c'est tolérance zéro. Là. Si vous faites des menaces aux politiciens, honnêtement, je souhaite que tous les politiciens portent plainte contre vous. Là, l'individu aurait menacé Paul Saint-Pierre Plamondon, mais il aurait menacé aussi de s'en prendre à toute sa famille. Vous gérez ça comment, les attaques envers votre personne ou encore envers les gens qui vous entourent?
Bien, d'abord, l'intimidation puis les menaces, là, c'est pas tolérable envers personne. Que tu sois un élu ou pas, que tu sois un politicien ou pas, que tu sois un animateur de radio ou pas. Moi, je pense que c'est pas acceptable d'une société démocratique et libre. Ça étant dit, j'en ai reçu, là, tout le monde en reçoit tous. Là. Moi, j'ai jamais voulu en parler, puis j'ai jamais voulu trop pousser, parce que je me disais toujours que ça va-tu donner encore plus, ça va-tu démontrer une vulnérabilité. Je me souviens que quand je partais en Irak pendant la guerre, la première chose que les Américains m'avaient dit, c'est il faut pas se laisser terroriser par des terroristes. Puis j'ai comme retenu cette leçon-là, puis je l'applique aussi aux trolls puis au monde qui m'insulte ou qui me menace. J'essaye de pas me laisser influencer, parce que c'est ça qu'ils recherchent. Il faut faire attention, parce que plus on leur accorde l'importance, plus on les alimente d'une certaine façon dans leur délire. Là. Donc, moi, la façon que je gère ça, c'est que je mets ça de côté puis je passe par-dessus. Là. J'essaie de leur accorder le moins d'attention puis d'intérêt possible.
Parce que, tu sais, dans mon ancienne vie radio, c'était à toutes les semaines. Là. Puis, tu sais, j'étais un peu comme toi. Là. À un moment donné, je me dis, les gens sont fâchés, sont pas d'accord avec toi, puis ils veulent te le montrer d'une façon différente en jouant gros bras. Puis jamais ces gens-là passeront à l'acte ici, à cette station-ci. C'est beaucoup plus tranquille pour ce qui est des menaces de mort. Mais de voir que constamment, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire la part des choses entre l'humain puis le politicien, puis ils veulent s'en prendre à leurs enfants, ben à vos enfants ou encore à vos familles, je trouve que ça devient très extrême. Pourquoi il y a autant de colère dans la population envers les politiciens? T'sais? C'était-tu comme ça avant la pandémie? C'est-tu la pandémie qui les a rendus fous?
C'est sûr qu'il y a eu un regain de ça pendant la période de la crise sanitaire. Pour toutes sortes de raisons, là, les gens socialisaient beaucoup moins, les gens avaient une détresse aussi financière, psychologique. C'est souvent des signes là, qui alimentent ça. Maintenant, c'est pas plus acceptable. T'sais. C'est pas. Je comprends qu'il y a des gens qui souffrent et qui sont en détresse, mais c'est pas parce que t'es en détresse que t'es obligé de menacer les autres. Donc, c'est toujours une situation délicate. Il y a pas de solution miracle. Hein. C'est pas. Aux États-Unis, rappelle-toi, là, on a un nouveau président qui s'est fait tirer dessus en pleine campagne. C'est des fois, ça prend des proportions qui sont complètement débiles, mais tout ce qu'on peut faire, je pense, c'est que tout le monde le dénonce, puis essaye de leur accorder le moins d'importance possible.
J'ai vu sur ta page Facebook qu'il y a Denis Coderre qui souhaiterait que tu aies accès à l'Assemblée nationale.
Oui.
Moi, j'ai honnêtement, d'être appuyé par Denis Coderre, ça me laisserait ni chaud ni froid. Pourquoi, toi, tu l'as partagé sur ta page Facebook? C'est pas un individu qui est très en vogue présentement.
Non, c'est pas à cause de ça. D'abord, c'est dans le cadre de l'élection partielle qui va avoir lieu dans la circonscription d'Arthabasca,
ouais.
Où je me trouve d'ailleurs. Là, je viens de sortir d'une rencontre avec un maire, puis je m'en vais dans quelques minutes dans une rencontre avec un autre maire du comté.
Ouais. Arthabasca, c'est Victoriaville.
Victoriaville, Plessisville, Princeville, il y a 16 municipalités, là, mais c'est le centre du Québec. Là. Et donc, il va y avoir une élection partielle qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. J'ai dit avant que je fasse ma crise cardiaque que j'avais la possibilité de me présenter, que j'évaluais la possibilité de me présenter. J'avais même commencé à appeler les 1400 membres. J'étais rendu à 200-300 déjà d'appeler. Puis là, présentement, tu vois, je reviens au travail. Puis la première journée, je suis dans le comté. Je suis en train de rencontrer les maires dans ce comté-là. Donc, on continue notre travail de ce côté-là. Et Denis Coderre, ce qu'il a dit, c'est que le Parti libéral ne devrait pas présenter de candidat contre un chef parce qu'il y a une tradition qui n'est pas toujours respectée, soit dit en passant, mais souvent, où les partis ne présentent pas de candidat contre un chef à une élection partielle. Puis étant donné que le Parti conservateur a eu 530 000 votes aux dernières élections, il y a des gens qui disent ben l'élégance, ça serait que ces gens-là puissent être représentés, puis qu'on laisse la partisanerie de côté et qu'on présente pas de candidat contre Éric Duhaime. Fait que c'est pour ça que j'ai partagé la déclaration là, du candidat à la chefferie du Parti libéral, Denis Coderre.
T'as-tu mentionné que t'allais déménager là si jamais tu gagnais les élections?
Ben écoute, là, on n'est pas rendu là. Je n'ai même pas encore annoncé qu'il me présentait. Là, mais...
ben là, tu viens de le faire, Eric.
Non. Je savais que Tariq Enoud, qui était notre candidat à la dernière élection, d'ailleurs, ouais. C'est une des questions qu'on pose à tout le monde. C'est parce que je veux savoir, est-ce que les gens aimeraient mieux avoir un chef comme député ou ils aimeraient mieux avoir un gars local? C'est un peu la question. Puis c'est la question que j'ai posée aux membres que j'ai appelés. C'est la question que je pose aux maires que je rencontre. On veut vraiment avoir le pouls du comté avant de prendre une décision. Moi, ma priorité, c'est pas que ce soit un ou l'autre qui soit élu. Ma priorité, c'est que le Parti conservateur du Québec puis nos idées soient représentées à l'Assemblée nationale dans cette élection-là. Et on a une occasion unique, historique, de faire notre entrée à l'Assemblée nationale par la grande porte. Puis je vais faire tous les efforts qu'il faut. Puis ça sera la meilleure personne qu'il faut. Mais on va travailler d'arrache-pied pour que ça arrive.
Puis y a-tu des sondages maison qui ont été faits dans le secteur d'Arthabasca concernant les partis politiques?
Nous, on en a fait, puis le Parti québécois en a fait. Les deux, on a rendu public nos sondages qui sont à peu près identiques. C'est une lutte entre le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec. On est né à né, là, 28%, 30%, là, dépendamment de quel sondage vous croyez, là, mais ça vous donne, c'est dans la marge d'erreur. On est à égalité dans la marge d'erreur. La CAQ est un peu plus loin, en troisième place. Fait que ça va être une lutte très, très serrée là, entre le Parti québécois puis le Parti conservateur du Québec.
Là, ça fait 6 semaines que tu es inactif dû à ta crise de cœur. Tu étais en arrêt complet pendant 6 semaines. Est-ce que tu repars la machine au grand complet ou tu repars ça tranquillement pour les prochains jours?
Bien, professionnellement, je recommence au grand complet. Là, normalement, là, je vais faire des bonnes semaines. Pour ce qui est de mon entraînement, ça, j'y vais un peu plus. Je vais augmenter mes charges de 10% par semaine, mais je vais me décider encore un mois ou deux avant de reprendre mon entraînement physique à 100%. Mais j'ai eu l'autorisation de mes médecins. Là, j'ai tout passé mes tests à effort, les prises de sang, tout le kit. Là, tout est beau. En fait, même, comme je te disais tantôt, je suis mieux qu'avant. Puis pire que ça, les probabilités que je meure du cœur sont moins élevés que la moyenne des citoyens parce que maintenant, je suis médicamenté, maintenant, je vais avoir un suivi médical. Donc, c'est des très bonnes nouvelles que j'ai eues là, au cours des derniers jours.
Fait que tu vas pouvoir chanter du Jerry Boulet au gym. Je suis c'est toujours ça. Vivant!
Je regarde en avant.
Salut, Éric Duhaime!
Merci, Yannick. Merci. À bientôt.
Bye-bye. On faisait le tour avec Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Après 6 semaines d'inactivité en raison d'une crise cardiaque, ben il revient aujourd'hui. J'imagine que ça va faire jaser. Comté d'Arthabasca, il va être libre. Il va y avoir des élections partielles. Est-ce qu'il va se présenter? Moi, je pense que oui, mais j'ai pas d'informations autres que juste « je pense que oui ». Mais comme il dit, il y aurait lui ou un autre candidat, puis ce sera les gens du comté d'Arthabasca de décider qui se présente. Est-ce que ce sera le chef ou encore le candidat? Mais au moins, ça ferait une entrée à l'Assemblée nationale. Midi 26, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021, 88-971-1021. Après la pause, les amis, c'est mon chum, Normand Voyer, qui est le chum de tout le monde, en fait. On va parler de la chimie de l'hiver, on va parler de la neige artificielle, les déglaçants, le sel qu'on utilise. On va parler de tout ça. Il y en a des connaissances, puis ça vous tente de lui poser des questions à notre chimiste préféré, ben vous nous textez sans aucun problème. On fait une courte pause et on revient. Ah, c'est des retrouvailles! Fin janvier. Je pensais le voir avant, peut-être. Je pensais que Pascal allait me faire un cadeau de Noël et dire « Bon, ben Yann, je t'ai choisi ton invité pour Noël. » Finalement, il vient me voir à la fin du mois de janvier. Je suis pas une priorité pour Normand Voyer, qui est chimiste à l'Université Laval, mais je suis content de te voir.
C'est pas ça la question, c'est juste que je suis assez occupé. Là, t'es pas tout seul dans mon agenda.
Non, mais depuis qu'on a commencé
à faire
depuis qu'on a commencé à faire des chroniques ensemble, là,
ça fait quand même longtemps. Hein?
T'as commencé à faire des radios internationales, des conférences internationales, commence à faire de la télé la fin de semaine avec Ève-Marie Lortie. T'es avec rendu le meilleur pote d'Ève-Marie Lortie, puis là, moi, tu m'as abandonné.
Je t'ai pas abandonné, j'ai juste moins de temps. Pour.
Oui, oui, c'est ça.
Écoute, Yannick, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je t'ai en grande estime.
Oui, puis les auditeurs aussi. Puis quand on a annoncé que tu allais venir faire un tour, les auditeurs avaient beaucoup d'attentes envers cette chronique-là. Parce que c'est Pascal que je comprends qui a choisi le sujet. Là.
Non. C'est l'inspiration de Normand.
Ben, j'essaie de me relier à l'actualité. La semaine passée, c'était le grand froid. Ouais. Il y a toutes sortes de choses.
On y met des bâtons dans les roues parce qu'effectivement, on veut tout le temps que ça soit relié un peu à l'actualité.
Ben oui,
là, hein.
Mais si les auditeurs ont des questions qui les intéressent. Là,
ben oui, ça me fait rire à chaque fois.
Ça me fait toujours plaisir. Si je le sais, je vais répondre. Mais tu sais, on sait pas tout.
Ouais. T'es un passionné de ton métier, puis on te pose tout le temps une multitude de questions. Des fois, c'est des questions qui sortent de nowhere, puis tu es capable de me sortir le nom du gars qui a trouvé l'aspirine qui fait en sorte qu'on consomme ça aujourd'hui pour nous éclaircir le sang ou enlever les maux de tête.
Oui, c'est vrai, hein? Tu sais que c'était même. C'est Hippocrate qui était le premier, hein? Hippocrate. Serment d'Hippocrate.
C'est-tu le frère d'Hippocrate, ça?
Non, ça n'a rien à voir.
Parce qu'il y en a qui disent serment d'Hippocrate ou serment d'Hippocrate.
Bon, il a commencé Hippocrate. Il donnait ça aux personnes qui faisaient de la fièvre. Il dit « Mâche donc de l'écorce de saule blanc.
Ouais. »
Puis ça avait un impact, ça diminuait la température. Les gens faisaient moins de fièvre. Ils s'étaient aperçus qu'il y avait une molécule dedans qui s'appelait l'acide salicylique.
OK.
Puis ça, l'acide salicylique, c'est un anti-inflammatoire un petit peu, mais c'est surtout un anti-fièvre. Ça permet de baisser la température. Puis il y a un gars, un chimiste allemand, Suisse, les Suisses.
C'est-tu des années 1800, ça, Normand?
Oui, parce que ça fait 120 ans à peu près qu'on a inventé l'acide acétylsalicylique.
OK.
Le fameux aspirine.
Mais il y allait à tâtons avant. C'est un peu comme les Amérindiens, quand les Blancs sont arrivés, les Blancs étaient extrêmement malades, les Amérindiens ont dit « Ah, ben nous, on a une potion pour vous autres. » C'était à tâtons constamment?
Bien, la science, c'est par essai et erreur. Je dirais pas par tâtons, mais c'est par essai et erreur. À tâtons, c'est tu l'oublies, tu refais d'autres choses là, mais c'est pas comme ça que ça se passe, hein, vraiment, là. Même les Premières Nations, là, c'est fou comment est-ce qu'ils avaient le don de découvrir les bonnes choses. Ils faisaient ça par essai et erreur, puis quand ça fonctionnait pas, ils se disaient « Ben, on fera pas ça de même, puis comment on a tanné les peaux. Ben, »
Est-ce que c'est les plus vieux scientifiques, justement, les Premières Nations?
Probablement.
Ils faisaient ça avec beaucoup de cœur, beaucoup d'études sérieuses, à écrire, à inscrire, à donner de l'enseignement de génération en génération.
C'était surtout verbal.
Moi, c'est encore beaucoup des traditions orales qui sont transmises de génération en génération. Puis ça l'inquiète beaucoup là, les Premières Nations, parce que surtout les elders, là, les aînés, là, parce que bien, aujourd'hui, c'est plus difficile de faire ça avec les jeunes, de transmettre les messages comme
ça. Puis on a de moins en moins de mémoire, mais tous ceux qui étaient les premiers à faire de l'astronomie, là, ces informations-là se transmettaient de façon orale.
Moi, il y a une histoire que je trouve absolument fantastique, là. Tanner des peaux, OK? Le tannage de peau, là. Bien là, on faisait ça avec de l'écorce de merisier rouge, OK? On prenait de l'écorce parce que les Premières Nations faisaient ça, OK? Pourquoi? Parce que c'est l'écorce qui est la plus riche en acide tannique. l'acide tannique qui servait à tanner les peaux. Il avait compris que tu le fais avec du bouleau, c'est moins bon. Tu le fais avec du chaud, ça ne marche pas. Il avait compris que c'était avec le merisier rouge que tu faisais le tannage des peaux. Tu faisais une solution, tu mettais tes peaux dedans, tu enlevais ça, puis là, ça tannait les peaux, ça les permettait de rester souples. Il n'y avait pas de bactéries qui pognaient là-dedans.
Ouais. Quelle communauté extraordinaire.
Vraiment. Non, mais c'est vraiment fantastique. Vraiment. Tu penses à ça. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde dit, ben oui, c'est... Non, non, c'est fantastique. Il faut le reconnaître.
Exact. Aujourd'hui, Normand, on parle de la chimie de l'hiver, on parle de la neige. On parle de la neige artificielle, on parle des déglaçants.
Tous les sujets qui vous touchent de la neige là, ou de l'hiver, là, qui vous intéressent. Là.
Il y a une rumeur, il y a de ça quelques années. Je pense que c'était un animateur de radio qui avait parti cette rumeur-là. Puis je veux savoir si ça aurait fonctionné. Lui, il mentionne que si on avait autant de problématiques avec le pont de Québec, avec le sel qu'on mettait sur le pont de Québec qui faisait rouiller la structure, avec du jus de betterave, on aurait pu éviter tout ça. Est-ce que ça, c'est vrai, ça, ou c'est une histoire de grand-mère qui disait « mets ta tuque, tu vas pogner la grippe ».
Roulement de tambour, est-ce que c'est vrai?
La réponse, moi, je pense que oui.
La réponse est oui, c'est vrai, OK? La réponse, c'est que il y a plusieurs choses qu'on aurait pu faire pour le pont de Québec. Premièrement, si on avait mis du gadolinium dedans, là.
Du gadolinium?
Oui, bien, c'est ça. Ben, tu sais, vous allez me dire, ben oui, Normand, on le dit. Mais ça aurait été un antioxydant absolument fantastique. Ça aurait fait de l'acier inoxydable, OK? Malheureusement, on n'a pas mis. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, le fer, ça a la mauvaise tendance de rouiller. Puis comment ça se passe, la rouille, là, sur votre voiture, sur le pont, n'importe quoi, quand tu as du fer, pour que ça rouille, ça prend deux choses. Ça prend de l'oxygène de l'air qui va oxyder.
Ouais.
Ça prend de l'eau, de l'humidité. Pourquoi? Parce que le fer, c'est une réaction chimique, puis ça se passe pas dans l'espace. T'sais, les électrons, il faut qu'ils passent à quelque part, ils passent dans l'eau. Puis qu'est-ce que ça fait, le sel? Ça catalyse cette réaction-là. Ça va beaucoup plus vite. Fait que la corrosion, qui est un phénomène d'oxydation sur votre auto, sur le pont de Québec, ben c'est le sel qui fait que ça augmente la vitesse d'oxydation.
Fait que moi, qui ai jugé tellement longtemps les gens, mettons, qui, ben jugé, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais les gens qui lavaient leur voiture de façon récurrente l'hiver, j'étais comme, ben vous allez la ressalir dans les trois prochains jours, ça aidait pour vrai à l'entretien de leur véhicule ou pas?
Non, pas vrai. Tu sais, le monde qui lave leur voiture en disant ça, je vais l'enlever, non, c'est faux. Le sel, là, ça, regarde pas ça. Cinq minutes après, t'as là. Ce qui aide, c'est quoi? C'est les traitements anti-rouille. Mm-hmm. Ça aide, mais pas en plein milieu de l'hiver. Ça, faut que tu fasses ça en été.
Oui, ils nous disent toujours que tu peux le faire à l'année, mais effectivement, mais les garagistes diraient que
quand c'est très sec et chaud, c'est là qu'il faut aller faire ça. Pourquoi ça fait une couche protectrice? Ça empêche l'eau de se rendre au métal. Si t'empêches l'eau de se rendre au métal, ben t'empêches la corrosion.
Parce que je sais qu'il y a quelques projets expérimentaux à la grandeur du Québec concernant les fameux ponceaux avec lesquels on met du jus de betterave.
Le jus de betterave.
D'ailleurs, en Beauce, si je ne me trompe pas, pour les auditeurs qui sont de ce secteur-là, doivent le savoir, il y a un de ces projets-là, 418-971-101, 418-971-101 par texto. Mais pourquoi on ne le fait pas actuellement sur le pont de Québec? Parce que, bon, on essaie d'en mettre le moins possible là, pour essayer que ce soit le plus environnemental possible. Mais du jus de betterave, il me semble que c'est simple à mettre.
Bien, c'est simple.
Parce que ça coûte rien, ben?
C'est plus compliqué. Mais premièrement, il faut comprendre que c'est très efficace, OK? Parce que le jus de betterave, en fait, c'est du glucose, c'est du sucre, OK? Du sucrose puis du glucose. Puis c'est ça qui fait fondre la glace, c'est ça qui diminue le point de fusion puis qui fait que ça fond, OK? Ils le font dans l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a quelques projets pilotes là, qui ont été faits, puis c'est vraiment efficace. Le hic, c'est que nos camions ne sont pas faits pour utiliser du jus de betterave pour déglaçant. OK? Ils sont faits pour prendre du sel, ils sont faits pour utiliser du sel depuis les 50 ans, puis ils sont faits aussi pour du sable mélangé avec du sel. Puis ça, c'est déjà des infrastructures qui sont déjà en place. Fait que transformer tous nos camions, là, ça serait vraiment coûteux.
Mais pour le pont de Québec, ça vaudrait la peine, parce qu'ils disent on est capable de le garder encore 100 ans si on s'occupe bien de la structure, si on remplace certains morceaux. Donc, d'avoir un camion qui se spécialise justement pour l'hiver, pour le pont de Québec, ce serait bien. Hey, j'ai le goût de faire chauffer ton cerveau.
Oui, on est donc.
Quand on était jeune, à la petite école, là, je pense que tout le monde va devenir nostalgique.
Ça fait vraiment longtemps.
Le prof, tu es encore à l'école. Tu peux te vanter de ça. Tu es encore à l'Université Laval parce que tu es prof de chimie là-bas. Là, tu es en sabbatique cette année, tu es relax. Mais,
relax. Attention, le monde, il pense que je suis en vacances. Je ne suis pas en vacances. Je travaille, mais je donne pas de cours. Ouais. C'est pas la même chose.
On regardait les flocons de neige avec notre loupe. Tu te souviens de ça?
Ben oui.
Puis ce qui me faisait halluciner, c'est que moi, au départ, dans ma tête d'enfant de 5 ans, 6 ans, je me disais, mais tous les flocons de neige sont pareils. Alors que tous les flocons de neige au monde qui tombent dans le monde entier sont tous différents. Qu'est-ce qui détermine ça? Est-ce qu'on le sait?
Ben oui, on le sait. Ah, puis en plus, c'est vraiment fantastique. C'est une histoire incroyable.
Attends, je vais demander à Pascal. Pascal, qu'est-ce qui détermine ça?
La forme des flocons de neige.
J'écoute Normand. J'en ai aucune
c'est,
idée.
C'est la structure de l'eau. Okay? Pour faire des flocons de neige, là, ça prend de l'eau. Ça prend trois choses. Hein? Ça prend de l'eau, ça prend du froid, puis ça prend un site de nucléation. Okay? Ça ne pogne pas comme ça. Tu sais, les cristaux de neige là, qui vont se faire, là, les flocons de neige, bien, ça va s'accrocher à de la poussière, une bactérie dans l'air, etc. Puis quand ça commence, la cristallisation, les molécules d'eau, là, c'est H2O. OK, là, je ne sais pas, la caméra, ça ne marche pas, personne ne va pouvoir me voir.
Oui, on te voit.
Tu es vrai? Mm-hmm. Ben, là, je vais vous montrer ça. Ça, c'est une molécule d'eau.
Ils vont H2O, voir, t'es pas maquillé.
OK, ben, oui, ça,
t'es
c'est
pas aussi
grave.
Beau qu'à la télé.
Ben oui, c'est ça, c'est grave. Non, je m'assume, OK? Mais
quand
ça...
Quand même, t'as zoomé.
À cause de la forme de ça,
ouais.
Quand les molécules d'eau hachent les hydrogènes puis l'oxygène rouge ensemble, ça forme le premier cristal de glace. C'est celui-là, avec 6 molécules d'eau. Puis si tu regardes la forme, Yannick, quand tu étais petit, là, puis tu dessinais, là, puis tes enfants dessinent des flocons de neige, qu'est-ce qu'ils dessinent? OK, là, je ne vois pas. Là, j'imagine que... Là, Là-bas, comme ça. Là. Qu'est-ce qu'il dessine? Il dessine ça en hexagone comme ça.
Ouais.
Bien, c'est la vérité scientifique. À cause de la forme de molécules d'eau, le premier cristal, il y a 6 molécules qui vont se mettre ensemble, va faire un hexagone. Puis après ça, les molécules d'eau vont s'accrocher dans toutes ces parties-là, puis là, ça va croître. On va faire des flocons. Ouais. Puis les mathématiciens ont calculé là, qu'après 15 rangées de tout ça, là, bien, il y a tellement de possibilités qu'il y a plus de possibilités que de particules dans l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas deux flocons identiques sur la planète.
Exact.
C'est impossible.
Bon, jusque-là, je te suis parce que j'ai répété avec beaucoup moins de mots à mes enfants exactement ça en fin de semaine. Après ça, mon gars, mon fatigant qui pose tout le temps des questions, dit « Oui, mais papa, quand il tombe de la grêle, qu'est-ce qui s'est passé? » Là, mon cerveau a jamé.
Bien, ça, c'est différent parce que les conditions météorologiques pour avoir de la glace puis des flocons, c'est totalement différent. OK? C'est totalement différent. Premièrement, si vous êtes en Gaspésie, vous êtes chanceux parce qu'à cause du degré d'humidité et des températures plus douces qu'on a en Gaspésie, ça forme des gros flocons. Tu sais, les balles de golf.
Oui, c'est de toute
beauté. Pour ça qu'elle est faite du ski, là, dans les chic-chocs, là. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que la neige est différente. C'est pour ça qu'à Whistler, proche de la mer, les flocons sont plus gros. Par contre, nous autres, ici au Québec, on est loin un peu de la mer et souvent, on a un taux d'humidité assez faible puis une température plus basse, ça fait des petits flocons. Puis quand ils ventent, ça fait de la poudrerie, ça fait ça. T'sais, on n'a pas le même type de neige, le même type de flocons. Puis ça dépend de la température, de l'humidité, puis des conditions. Pour faire de la glace, ben, c'est l'été.
Parce qu'à Sainte-Marie-de-Beauce, on a eu un épisode de grêle. Écoute, ça avait scrappé toutes les chars de la ville au grand complet, puis les villes avoisinantes. Là. C'était comme des balles de golf.
Oui.
Puis je rappelais ça à mes gars, mon plus vieux, je pensais qu'il s'en souvenait, mais il s'en souvenait pas du tout. Mais nos véhicules avaient été poqués par cette grêle-là. T'sais, qu'est-ce qui fait qu'un beau flocon de neige, ça tombe au sol, c'est super, ça tombe, c'est beau, c'est magnifique, mais là, tout d'un coup, tu as une balle de golf qui se forme dans le ciel.
Oui, ça, c'est différent, OK? Ça prend des conditions, il faut qu'il fasse chaud, puis il y a de la chaleur, beaucoup d'humidité qui monte, puis ça arrive, puis là, ça gèle, ça fait des gros morceaux de glace, ça fait pas des flocons. Pour faire des flocons, là, comme je disais, ça prend des poussières. C'est pour ça qu'il y a une poussière qui va être à l'origine d'un flocon. Puis quand ça va tomber, ben ça va faire... T'sais, des fois, c'est des poussières, des fois, c'est des bactéries, des fois, c'est des micro-organismes.
C'est pour ça qu'il faut pas en manger. Quand t'es jeune, tu manges de la neige, puis tu penses que tu manges de l'eau fraîche, tu bois de l'eau fraîche, mais un petit peu gelée.
Exactement! En fait, tu peux en manger, là. T'sais, si tu en manges un petit peu, il y a pas trop de danger, là, paniquez pas, là, si vos enfants mangent un petit peu de neige. Mais c'est sûr que si tu en manges trop, tu vas finir par avoir peut-être certaines bactéries qui vont développer, puis ça peut donner le va-vite.
Et peux-tu y avoir des contaminants éternels là-dedans?
Bien, bien sûr.
Ouais.
Tout ce qui se retrouve dans l'air, tous les polluants atmosphériques, la neige, là, c'est un purificateur d'air extraordinaire. Quand la neige se forme, les cristaux s'attrapent des particules, OK? Puis là, ils vont capter ces particules-là, puis ils vont les amener au sol, ça purifie l'air. C'est pour ça, là, l'hiver, quand on a une grosse chute de neige, le lendemain, le ciel est bleu, bleu, bleu.
Exact.
Il est polluant, c'est vraiment bon. Fait que s'il y a des polluants éternels, ça va se retrouver dans la neige.
À chaque fois que je t'entends parler de chimie, de ces affaires-là, je me dis tout le temps, tu sais, moi, j'ai pas de croyance, là. Et je me dis, il a fallu qu'il y ait quelque chose qui fasse ça, là. Que tout soit parfait comme ça, que la neige tombe, ramasse toute la
mais
cochonnerie.
Mais c'est pas tout parfait, hein?
Ramène ça tout au sol. Ben non, mais il n'y a rien de parfait, là. Regarde, non, regarde-moi. Non. mais c'est juste exceptionnel, tu sais.
Mais quand tu t'intéresses, là, moi, ce que j'aime de la chimie, c'est... Moi, je voulais... Il y a un prof qui m'avait dit que la chimie, tu peux comprendre le monde qui nous entoure. Hey, c'est fou quand même, hein? Juste là, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, les flocons de neige, comment tu déglaces. Hey, non, mais
faut
juste...
Peut-être tout un cerveau, par exemple, pour te questionner continuellement
ouais, ça,
sur ces petites affaires-là.
Ça
me fascine. Questions,
hein? C'est vrai. Non, mais par exemple, là, j'ai pris l'avion, puis là, il y avait du déglaçant, tu sais, parce qu'il déglace les avions. Il y en a du fluo vert, puis il y a du fluo orange. On me disait, il y a sûrement une raison à ça. Hein? Il y a une raison. Ça,
c'est les degrés?
C'est pas la même composition chimique. Il y en a un qui est fait pour solubiliser, il est chaud, il est mis à chaud, puis ça déglace.
Exact.
Puis il y en a un autre qu'ils vont mettre après, qui lui va rester sur l'avion. Lui, il va rester sur l'avion jusqu'à temps qu'on décolle. Pourquoi? Parce que là, c'est du propylène glycol, ça empêche de geler. Puis quand tu roules, puis quand on prend assez de vitesse à 175 km/h, il devient liquide, il s'enlève.
Il part.
Puis là, t'es rendu en haut. Merci, ciao, bye. Hey, non, mais c'est vraiment cool quand même. Hein. Qui a pensé à ça? Toute l'optimisation. Moi, je suis toujours épaté de ça.
Je pense tout le temps au premier qui l'a testé puis qui s'est planté.
Oui, ça, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont dit sûr ça va marcher. Mais tu sais.
Moi, j'ai vu un documentaire sur les frères Wright. Là.
Oui, ben hey, oui.
Ils se sont pétés à la gueule, eux autres, assez souvent.
Oui, mais il y a des histoires encore plus drôles. Moi, je trouve, là, Pasteur. Pasteur, lui, était convaincu. Il est arrivé.
C'était quoi son prénom? Henri?
Louis.
Louis Pasteur.
Louis Pasteur. D'ailleurs, je vais aller faire une conférence à l'université. Qui s'appelait l'Université Louis Pasteur, mais là, ça s'appelle l'Université de Strasbourg.
Ah ben.
Pasteur, il a dit, la génération spontanée, ça n'existe pas. Tout le monde a parti...
La
tout
quoi?
Monde a... La génération spontanée. Parce qu'avant Pasteur, tout le monde pensait, il n'y avait pas de vie, puis tout à coup, il y en avait. OK, il coupait un morceau de viande, puis il dit, si tu le laisses assez longtemps...
Il va avoir de la vie.
Il va avoir de la vie, OK? Fait que c'est ça. Pasteur, il a dit ça, c'est de la BS, ça. Ça n'existe pas. C'est juste parce que... La vie est déjà là, ça ne pousse pas spontanément comme ça, elle est déjà là, il y a des micro-vies, des micro-organismes qui sont là-dedans. Ça. Tout le monde a ri de lui. Tout le monde a ri pendant 10 ans.
Mais pourtant, il avait raison.
Ben oui, mais il a essayé une expérience qui était vraiment incroyable. Il a essayé de faire, il a mis des choses, il a dit, je vais chauffer, puis s'il n'y a pas d'oxygène qui rentre, s'il n'y a pas d'air qui rentre, ben il n'y aura pas de vie. La génération spontanée, ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché, son affaire. Ça leur fait de la vie. Puis là, ils ont ri de lui, là, à l'Académie des sciences. Ils ont ri de lui. Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis trompé. J'ai pas fait ça comme il faut. Je suis sûr que j'ai raison. Il était tellement tannant. Fait que là, il l'a refait, puis au lieu de mettre de l'huile dans son célèbre système, ben là, il a mis du mercure. Là, le mercure, c'est pas mal plus dense, puis l'air a pas rentré, puis là, il a clenché tout le monde.
Ouais.
Et la génération spontanée, c'est mort, puis lui, il a même dit, « Hey, maintenant, je vais être capable de faire des vaccins avec ça, parce que j'ai compris comment ça marche.
Ouais. »
Non, mais c'est lui qui a découvert le vaccin de la rage. Comment il a fait? Il a repensé. Moi, ça m'épate toujours. Ça, là. Il y a plein d'affaires comme ça. C'est comme tes bottes.
Mes bottes?
Ces nouvelles bottes qui ont été magasinées par un collègue ici parce que le collègue en question était tanné de le voir avec ses réguines.
Oui, il voulait me mettre en mode. Moi, j'ai comme un Jean Héroldi qui travaille avec moi. Il m'a acheté des belles bottes. Mais les bottes, pourquoi tu me parles des bottes?
Bien, parce que le monde parle d'imperméabilisation.
Oui.
On va parler de ça, imperméabilisation. Mais comment? Pourquoi ça devient imperméable? C'est parce que tu ne veux pas avoir de molécules d'eau. Puis quand tu comprends la chimie, c'est super facile de ne pas avoir de molécules d'eau. Tu as juste à mettre quelque chose qui repousse l'eau. On appelle ça quelque chose d'hydrofuge.
Ouais.
Fait que là, ça pousse l'eau. Ça, c'est vraiment le fun. Puis il y a plein... les scientifiques ont mis au point là, des super crèmes que tu peux mettre sur tes bottes. C'est vraiment efficace. Vraiment, mais très, 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 très efficace. Il y en a qui c'est tellement efficace, c'est éternellement dans l'environnement.
Ouais. Hey, je veux revenir à Pasteur. Parce que quand on meurt, ben, maintenant, on est tous incinérés pour la plupart. Là.
Ouais, pas tous.
Mais tu sais, en majorité.
En majorité,
oui. Mais tu sais, autrefois, tout le monde se faisait enterrer.
Ouais.
Puis ce qu'on nous disait, c'est que on enterre ça dans la terre. Là, les bébites, ils s'en viennent. Mais techniquement, c'est pas les bébites qui s'en viennent. Les bébites se forment en nous.
Ils sont déjà là, les bébites.
Exact. C'est ce qui se forme en nous qui fait en sorte que le corps commence à disparaître.
Mm-hmm. C'est ça, exactement. La décomposition, même si c'est dans un sac de plastique, ça va se décomposer pareil.
Exact. Mais comment on faisait autrefois pour les momies, tu sais, les fameuses momies?
Ah, les momifications. Oui. Hey, ça, c'est
parce que ça, il
n'y
en avait pas, des bébites.
Non, mais, ben oui, il y en avait.
Les bébites étaient là pareil, même s'il n'y avait pas d'air.
Non, c'est parce que là, le processus de momification, oui. Les Égyptiens étaient des chimistes absolument incroyables. Ils avaient compris qu'ils pouvaient prendre certaines huiles essentielles, traiter le corps avec ça, ouais. Avec des petites bandelettes. Et là, ce que ça faisait, c'était un antiseptique. Ça tuait les micro-organismes qui étaient dedans. Et ça a permis de
uniquement
conserver...
en surface?
En surface. Ils en ont mis à l'intérieur. Ils purifiaient le corps. Hey, ils étaient des chimistes absolument incroyables. Hey, oublie pas.
Puis est-ce qu'ils sortaient qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur
ben
au
oui,
complet?
Bien sûr.
OK.
Ben oui.
Puis après ça, ils mettaient les fameuses
bandelettes. Ben là, regarde, je ne suis pas un spécialiste de la momification. Là. Ouais. Il y a sûrement des archéologues.
Parce que
qui
c'est
nous
exceptionnel,
écoutent,
quand tu vois des momies.
Qui nous écoutent.
Qui nous écoutent. Qui
adore, Marceau le Midi.
Quand tu vois des momies qui ont été, qui ont été découvertes, là, puis après ça, on a enlevé les bandelettes, le corps est pratiquement. Ben, il est
intact, oui, vraiment.
Pratiquement intact.
Mm-hmm. Ça, mais il y a plusieurs façons. Même, on a trouvé des mammouths très bien conservés dans la glace. Fait qu'il y a plusieurs façons d'expliquer la conservation de la matière.
Dans la glace, est-ce que les bébites se forment quand même. Donc.
Oui, sauf que des processus, puis la vie est beaucoup plus lente à basse température. Puis là où il n'y a pas beaucoup de molécules d'eau, il n'y a pas beaucoup de vie. Ça prend de l'eau pour avoir de la vie. Fait que quand tu es à moins 50, il n'y a pas beaucoup d'eau, puis il n'y a pas beaucoup de vie. Fait que tu sais, ça se décompose moins vite. Si tu prends quelque chose, tu le remets à température... Bien, d'ailleurs, dans ton congélateur, quand tu as congelé quelque chose, puis tu le ressors, puis tu le laisses à la table, bien, c'est pas long que ça va pourrir. OK? Pourquoi? Parce que là, il va y avoir de l'eau, puis il va y avoir de la vie. OK? Fait que si la température est là... Tu sais, où il y a de l'eau, il y a de la vie. Tu sais, quand j'entends le monde, oh, moi, j'aime mieux des affaires sans agent de conservation, là, et... Où il y a de l'eau, il y a de la vie. OK? Okay. Fait que, tu sais, tu peux avoir des problèmes.
Parlons d'un problème que les hommes et les femmes ont régulièrement à la maison. C'est toi qui vas régler ça.
Oh!
Le thermostat.
Oh! OK? Hey, ça, c'est beaucoup de pression. Là.
Quand mes gars étaient bébés, je mettais ça à 23-24. Pour moi, c'était beaucoup trop chaud, mais pour eux autres, ils pouvaient se promener en couche dans la maison, puis c'était bien correct. Mais quand les enfants n'étaient pas là, moi, je mettais ça à 21, puis ma conjointe de l'époque mettait ça à 22.
C'est même trop chaud.
22, c'est trop chaud.
Nice.
Okay. Trop chaud dans le sens de confort ou trop chaud chimiquement?
Parce que là, elle me dit tout le temps, Yann, j'ai froid. Ouais, mais tu peux pas avoir froid. Il fait 21. Quand il fait 21 l'été, t'as pas froid.
Ouais, ça, c'est un grand débat de société. Est-ce que les femmes sont plus frileuses que les hommes? Mais en gros, là, on surchauffe nos maisons. Hein? On surchauffe nos appartements tout le temps, tout le temps. En gros, on surchauffe. Puis la température qui devrait être idéale, c'est 20 degrés. On pourrait dire que ça peut aller à 22 degrés. Là. Pourquoi?
Pascal, pourquoi 20 degrés?
C'est parce que
la peau, l'assèchement de la peau.
Bien, t'es proche. Parce que en fait, notre corps, là, il est fait pour qu'on vive à 20 degrés. Parce qu'à l'intérieur de notre corps, il y a plein de réactions chimiques qui se passent. Ça peut être des réactions métaboliques. Fait, ça chauffe. Puis là, nous autres, bien... on transpire, puis on laisse sortir de la chaleur. Hein? C'est ça, comme ça que ça marche. Puis la meilleure température qui fait que notre corps fonctionne bien, c'est 20 degrés. Fait que là, c'est l'équilibre, nos choses, tout fonctionne
est-ce
super au
maximum.
Est-ce que
c'est pire quand c'est plus chaud ou c'est pire pour notre corps quand c'est plus froid?
Et ça dépend de chaque personne, OK? Parce
pas en termes de confort, en termes de ce que tu viens d'évoquer, là.
Bien, c'est n'importe quoi qu'on va faire, notre corps est fait pour fonctionner à 37 degrés, OK? Pas plus, pas moins. Fait que s'il fait froid dehors, notre corps va trouver des moyens pour se réchauffer. Parce que sous notre peau, des centaines de millions de petits capteurs de température. OK? Puis si tu me crois pas, demain matin, en te réveillant, va dans la salle de bain puis prends de l'eau fraîche, mets-toi ça dans la face, tu vas voir qu'il y en a des capteurs de température. OK? Fait que ça, notre corps, il réagit. S'il fait trop chaud, bien là, il y a des mécanismes qui vont faire qu'on va se refroidir. S'il fait trop froid, il y a des mécanismes qui vont faire qu'on va se réchauffer. Fait que l'hiver, quand c'est froid, ben c'est quoi le premier mécanisme qu'on a pour se réchauffer quand il fait froid?
S'habiller plus chaudement?
Ouais, ça c'est
monter le chauffage?
Des deux, mais en fait, c'est grelotter.
OK, sans s'en rendre compte.
OK, ça sent. Excuse-moi, Pascal, t'étais vraiment bonne, mais on grelotte. Pourquoi on grelotte? C'est un mécanisme pour nous réchauffer. OK? C'est la contraction musculaire qui va faire qu'on va brûler, on va faire des réactions chimiques avec nos muscles, puis on va créer de la chaleur. Fait que frissonner, grelotter, okay, ça nous réchauffe.
Mais moi, normal, je suis malheureusement un petit peu macho. Je veux savoir, c'est-tu les filles qui ont souvent plus frettes que les gars?
Bon, ou... on va régler ça tout de suite.
Règle ça, okay, parce que moi, là... Ça.
Je le sais que tu veux savoir la réponse à ça.
J'ai pas eu grand-femme dans ma vie, j'en ai eu 5, OK? 5 vraies blondes.
Elon Musk.
Ah oui, je suis un gars de même.
Sauf qu'il y en a une qui a pogné le clou dans l'espace de 2 secondes.
Je leur ai pas toutes faites des enfants.
Bon.
Mais, malheureusement pour elle. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes mes blondes m'ont déjà mis leurs mains dans le dos pendant que je dormais ou encore les pieds dans le dos pour se réchauffer, ben, comme si j'étais un poêle.
Là, on va régler ça tout de suite. Je vais répondre à ta question.
Mais c'est épouvantable faire ça à son homme, mesdames.
Oui, les femmes sont plus frileuses que les hommes. OK, c'est vrai, pour plusieurs raisons. Premièrement, la vraie raison, c'est que pour la même masse corporelle, ils ont moins d'énergie métabolique. Ils ont moins de muscles et ils vont moins produire de chaleur. Fait que c'est tout à fait normal. Ils produisent au repos l'énergie métabolique un petit peu moins que les hommes. Mais il y a d'autres raisons à ça. Okay? L'autre raison, c'est une raison hormonale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'a pas l'œstrogène, puis la variation des hormones...
Ça, ça a-tu rapport avec le mal de tête le soir? Ça?
Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec la température corporelle, okay, tu me le demandes. Fait que ce qu'on a noté, c'est que lorsque le cycle de l'œstrogène varie, ben ça fait baisser la température interne du corps. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu ressens plus la température ambiante. Fait que s'il fait, tu ressens le froid plus que les hommes. Fait qu'est-ce que...
On est victimes, finalement. Ah ouais.
Et l'autre mécanisme pour les femmes, c'est quoi? Ben, pour tout le monde, quel est l'autre mécanisme pour se protéger du froid ambiant quand tu as froid? C'est qu'il y a des molécules qui vont être sécrétées dans notre cerveau, l'adrénaline, qui va contracter les vaisseaux sanguins à la surface de notre peau, puis va concentrer le flot sanguin à l'intérieur où il y a les organes vitaux. C'est pour ça qu'on gèle plus vite des mains puis des pieds. Fait que c'est pour ça, c'est pour ça que ça a été montré que t'es dans The Lancet, d'un journal super extraordinaire.
C'est le journal scientifique.
Un des journaux médicaux scientifiques incroyables. Ouais. Que les femmes ont une température... Attends une minute. Les femmes ont les mains, ont plus susceptibles d'avoir les mains et les pieds plus froids que les hommes. C'est une étude scientifique. Et à l'intérieur, la température corporelle des femmes est plus élevée. Donc, mains froides, cœur chaud.
Oh.
J'allais dire Pascal a les mains gelées parce que j'ai pogné les mains pour voir si elle avait les mains gelées.
C'est vrai,
pareil. Je pensais qu'elle avait le cœur dur, moi.
Non, ah, il est non, chaud, il est ben juste, non. Il y a une grosse clôture.
Mais il y a des moyens. Okay. Hein,
mais sérieux, c'est compliqué d'être une fille parce que, bon, ils vont avoir à vivre avec ça, les problèmes de froideur et tout ça, mais rendu à un certain âge, 45, 50 ans, là, c'est l'inverse. Écoute, des femmes, moi, qui m'ont rapporté avoir de grosses chaleurs.
Ah oui, mais là c'est 18, pas la même chose. Ouais. Parce que quand tu as des problèmes de ménopause, c'est différent. Hein, tu as des problèmes
c'est
de
aussi,
changement.
C'est que tu prends
hormonal,
toutes tes hormones, tes chèques dans le sac. Fait que tu es encore en dérèglement.
Oui, c'est ça. Ça varie avec. Là, puis plus on devient vieux, plus nos mécanismes de contrôle de notre température interne sont fragiles. Ça veut dire que les personnes âgées sont plus sensibles d'avoir des engelures. Mm. Puis ils sont moins sensibles à la température quand il fait chaud aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'ils s'hydratent plus, parce que sinon, ils peuvent se déshydrater plus facilement.
Puis les personnes âgées, en majorité, eux, ont plus souvent froid qu'autrement?
Non. Ils sont moins sensibles aux variations de température.
Sont moins
c'est
sensibles.
Ça qui est dangereux, tu sais, parce que leurs senseurs à la surface de leur peau sont désactivés. Parce qu'on peut s'habituer au froid, là, si tu veux savoir, là, si vous voulez, c'est possible de s'habituer au froid. Donc, si vous baissez la température dans votre maison, vous allez voir qu'après un certain temps, vous allez vous habituer. Pourquoi? Parce qu'on va désensibiliser. Tu sais, nos petits capteurs de température sur notre peau, là, bien, ils vont devenir moins sensibles aux variations, puis vous allez moins ressentir.
Bien, les gens qui travaillent régulièrement à l'extérieur ont ça.
Ou dans les entrepôts frigorifiés.
L'effet inverse se fait-tu? Tu sais, des gens qui habitent plus au sud ou encore toi, tu déménages, tu deviens, je sais pas moi, quelqu'un qui décide d'aller vivre en Floride ou...
On s'habitue. On peut s'habituer. On s'habitue au changement de température. On se désensibilise. Okay. Il y a pas ça l'habituation, mais c'est pas une adaptation. Là. Si quelqu'un s'en va... rester aux Émirats arabes unis ou quelque chose de même, puis il fait 40 l'été, là, on on s'habitue pas.
Mais moi, c'est quand je vois les petits Mexicains débarquer ici là, pour les piouis, là, ouais. Là, ils comprennent pas ce que c'est que l'hiver, puis ils arrivent à moins 20 que le vent en face. Là. Eux autres, ils hallucinent leur
vie. Ah oui, oui. Même l'été, ils trouvent ça froid. Là.
On a des questions, oui. Entre autres. Tu sais, l'activité sportive où il y a une chaleur plus intense, puis est contrôlée comme le yoga show, où on monte jusqu'à 40 degrés, puis on te demande de faire du sport là-dedans. Est-ce que ça a un bénéfice réel?
Bien, c'est un bénéfice. Peu importe l'activité physique que tu vas faire, quand tu fais de l'activité physique, tu contractes tes muscles. Quand tu contractes tes muscles, tu fais des réactions chimiques. OK? Puis là, je vais passer le nom. Là, tu sais, tu prends de l'ATP, tu fais de l'ADP. Puis ça, c'est exothermique, puis ça nous réchauffe. Et donc, oui, ça réchauffe. Est-ce que c'est bon? C'est toujours bon de faire de l'activité physique. C'est toujours bon.
Mais à la chaleur comme ça, est-ce que ça amène quelque chose de plus?
À la chaleur, c'est plus difficile. Au froid, c'est connu que le froid stimule les endorphines. Donc, c'est bon pour notre... D'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes qui font, par exemple, des bains de glace. Les lanceurs au baseball vont faire ça. Pourquoi? Parce que ça va diminuer l'inflammation.
Okay. Est-ce que tu t'habitues à ça? Parce que moi, j'avais été au fameux bain de glace. J'avais été au spa, au lac Beauport. Comment il s'appelle?
C'est le Sibéria qui est là.
Le Sibéria. Puis là, ben, tu avais justement les fameuses zones là, chaudes, après ça tempérées. Puis après ça, elle m'a dit « On s'en va se pitcher dans la rivière. »
Ouais.
J'ai dit « Non! » Puis là, j'ai retourné dans le spa parce que j'étais mieux dans le spa. Est-ce qu'on s'habitue à aller dans ces fameux bains de glace-là ou c'est à chaque fois, c'est comme si t'allais à Hall Archer?
Ça, c'est trop froid. Là. Tu t'habitues pas. Ouais. Ce que tu peux faire, est-ce qu'il y a des bienfaits pour le corps? Il y a beaucoup d'études là-dessus qui montrent que des petites expositions au froid régulières comme ça stimule les endorphines puis ça diminue certains processus inflammatoires. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non. Puis parlez-en à votre docteur avant de faire ça. Parlez-en à votre professionnel de la santé. C'est pas pour tout le monde de faire ça non plus.
Ben, j'ai tout le temps l'impression que je vais faire une crise de cœur.
Moi aussi.
Ça prend du courage.
Non, mais moi, je dis toujours la misère, c'est optionnel. Tu n'es pas obligé de faire ça.
Hey, là, parle-moi de tes prochaines semaines, parce qu'il nous reste à peu près 2-3 minutes. Normand Voyer, là, chimiste à l'Université Laval. C'est excitant ce qui va t'arriver. Tu t'en vas pour quelques semaines. En fait, il y a quelque chose de cool, parce que le 14 février, tu ne seras pas à Québec, fait que ça ne te coûtera pas rien pour la Saint-Valentin.
Ah, t'as peu, là. La Saint-Valentin, c'est pas obligé d'être le 14.
Oui, ça va coûter cher. La Saint-Valentin, c'est à l'année. Hein? S'il y a des auditeurs, des auditrices, c'est à l'année. Hein?
Oui, mais ceux qui disent ça, ils font jamais rien.
C'est ça.
C'est vraiment une façon.
Ça pour plaire aux femmes. Mais toi, tu t'en vas à l'extérieur, là.
Oui, c'est ça. Je m'en vais pour 2 mois, là, dans le cadre de mon année d'études et de recherche. Je m'en vais apprendre des techniques qu'on fait pas ici à Québec, des scientifiques avec des collègues.
Ouais.
À l'Université de la Côte d'Azur, à l'Université de Genève et puis à l'Université Dublin. Alors donc, je vais à l'Université Dublin. Au Trinity College Dublin, là, puis Technological University of Dublin, là, tu sais, je m'en vais à Dublin, là, où je vais faire des conférences, établir des collaborations et apprendre à caractériser les fragrances, tout ça pour essayer de valoriser les plantes.
Ouais.
Des communautés nordiques pour essayer de développer l'économie locale là-bas, des micro-entreprises. Là.
Encore relié avec tes expériences dans le nord du Québec.
Avec ce qui se passe dans le Grand Nord canadien, ça t'inquiète-tu, toi, de voir que c'est rendu une passoire puis que tout le monde dit « Le Grand Nord, ça nous appartient. Les Chinois veulent que ça leur appartienne. »
C'est très inquiétant.
Donald Trump est là.
C'est très inquiétant parce qu'il faut le défendre, parce que la seule et unique raison que les gens veulent le revendiquer, c'est pour aller chercher les ressources que là.
Exact.
Ils ne sont pas intéressés aux communautés. Ils ne sont pas intéressés à préserver ces environnements, ces écosystèmes extrêmement fragiles. C'est très inquiétant.
Mais vous autres, là, vous allez chercher des plantes là-bas qui servent à développer les médicaments de demain? Là.
Non. En fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. On essaie de démontrer la richesse des organismes du Grand Nord pour permettre de mieux protéger ces environnements-là, pour avoir des raisons supplémentaires de protéger ces écosystèmes-là qui sont en profonde mutation avec les changements climatique. Si vous pensez là, qu'ici, là, on a ça, c'est dans le nord que les changements climatiques s'expriment le plus.
Et vous étudiez encore les plantes là-bas pour
faire des médicaments? Oui, on étudie les plantes parce que là, avec les changements climatiques, les communautés nous ont demandé plein de plantes médicinales qui les intéressent. Bien, ils ont des changements importants à cause du cycle de la plante. Il fait chaud, bien plus de bonheur. Il y a des arbustes qui poussent. Fait que le cycle de la plante change et ses propriétés médicinales changent. Et puis là, on essaie de voir quel est le meilleur moment de l'année pour récolter la plante pour être capable d'avoir les maximums d'effets médicinaux pour éviter d'avoir des effets secondaires, etc.
Fait que là, tu pars pour 2 mois.
Oui.
OK. Tu as vendu ça comment, l'idée?
À qui?
À ta femme. Moi, des fois, je dis... J'ai...
Pensez à l'université.
Des fois, voilà, je dis, j'ai deux games de hockey cette semaine, puis à soupir. Toi, tu pars 2 mois.
Oui, mais...
Je pense que ton temps, il est fait normal.
Oui, je pense que oui. Je pense que ça va me coûter beaucoup de air lousse, puis après ça, il va falloir que je fasse la vaisselle pour les 6 prochains mois.
Oh oui, t'auras à te faire pardonner. Normalement, voyez, c'est toujours un plaisir. Fait que là, je sais qu'on te verra pas durant 2 mois, mais j'espère que tu vas repasser à l'émission. Les
on
gens
fera ça,
beaucoup.
Tu m'appelleras. On fera ça en ligne, en direct, comme ça. Je parlerai de Dublin.
Puis à chaque passage de Normand Voyer dans notre émission, on a l'impression de se sentir toujours un peu plus intelligent.
Bien, merci, ça me fait vraiment plaisir, puis je souhaite un bon hiver.
13h09, merci beaucoup, Normand. Pour les gens qui viennent de se joindre à l'émission, on est avec Normand Voyer, qui est chimiste à l'Université Laval, prof de chimie à l'Université Laval, qui est en... congé pendant quelques
années d'études et de recherche.
Voilà, oui, c'est ça.
Chaque fois qu'il passe, Yannick, il va falloir que tu vois quelque chose. On a énormément de commentaires du genre « Ah, mon Dieu, ça fait tellement du bien les inviter comme ça. Faudrait qu'ils reviennent plus souvent. » Tu vois, ça, c'est lié à l'intellect.
Oui.
Fait que j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir que tu fasses un travail exemplaire sur améliorer cette émission-là pour l'intellect.
C'est ta co-animatrice, elle?
Oui.
OK, c'est ton amie.
Oui, mais je l'ai
Non, co-animatrice.
Ah, OK.
Mais moi, pas de la pression de même.
Je l'ai pas choisi.
On s'est pas choisi.
Vous formez un beau petit couple.
C'est ce que des gens disent.
Des gens pensent, oui.
Après la pause, on a le plaisir de jaser. D'argent, comment ça se passe, les REER, là, parce que ça va être le temps des impôts bientôt. On va avoir Patrimon qui va être là pour nous jaser un peu de ça. Si vous avez des questions pour lui, 418-971-1021, 418-971-1021. Patrimon, c'est un ex-gestionnaire de patrimoine. C'est aussi un ex-militaire. C'est un gars qu'on apprécie. C'est un collaborateur de la station. Donc, si vous avez des questions, 418-971-1021, on revient.
Mais qu'est-ce qu'on dit?
Pauvre Pascal!
Hey, maintenant, on passe à l'invité sur Twitch. Là. Mais ça enlève beaucoup de moments du genre les deux gars qui parlent d'hommes avec beaucoup d'intérêt.
Avec beaucoup d'intérêt, non.
Mesdames, ils parlaient des hommes avec beaucoup d'intérêt. Ils nommaient plein de bels hommes en disant « Hey, eux, ils font capoter les femmes. Ben » Ça oui, a été ça pendant 5 minutes.
Jack Meat Singh. Le gars du NPD, là, tu sais, moi, je l'ai croisé dans une ancienne station de radio où j'étais. C'est vraiment un beau bonhomme, là. Puis les filles de la station se trouvaient des prétextes pour passer à côté pendant qu'il était là.
Ben, il est pas laid, puis il est intelligent.
Un armoire à glace. C'est un gars qui s'exprime super bien.
Mais t'as pas dit
l'armoire à glace? Ses idées politiques sont un peu débiles, là. C'est un prof de karaté, de mémoire, Jack Meat Singh.
Oh, mais c'est pas surtout, là, que c'est...
Mais c'est un armoire à glace. Puis,
pour tester, t'as dit, il est bâti comme un cheval.
Exact.
Dieu qu'on soit honnête, là. Je veux vraiment qu'on soit...
Mais j'ai pas vu son pénis.
Et je voulais pas qu'on soit si honnête.
Je parlais de ses épaules.
Je voulais qu'on soit honnête, point.
Je parlais de ses épaules. Denis Gravel, à 14h, vous parlera peut-être.
Il était là, je l'ai vu dans la fenêtre.
Oui.
Il avait l'air heureux, sain, serein.
T'as-tu remarqué ses culottes?
Non.
Il est en coton ouaté.
Mais voyons, il est-tu niaiseux, lui?
Je te jure qu'il est en coton ouaté.
Ça me tente encore moins d'en entendre parler, mais j'ai tellement d'images, puis je les veux pas. Je les veux pas. On se souvient que vous êtes mes collègues.
Oui.
Ça pourrait me polluer à vie, là.
Denis Gravel est allé passer vers les entours de midi un fameux spermogramme.
Oui.
Moi, j'ai fait ça, mais ça impliquait beaucoup moins ma personne à l'intérieur de l'hôpital. On a dû faire ça à l'extérieur de l'hôpital. En fait, j'ai dû faire ça avec assistance. Puis après ça, je me suis pointé avec mon petit bonheur à l'hôpital. Puis je trouvais ça extrêmement gênant parce que faut que tu montes, je pense, au 3e étage. Puis tu dises à la dame, je viens porter mon petit bonheur pour le spermogramme. Puis là, elle arrive avec ses gants.
J'espère.
En fait, il y a un gant seulement, comme Michael Jackson. Il y a un gant.
Vous analysez tout ça?
Non, mais c'est la main qui prend le petit flacon.
Elle prend ton bonheur.
Oui.
Puis là, elle se promène dans l'hôpital avec ton bonheur, puis elle va porter ça dans le congélateur.
Mais c'est tellement hors de ton corps. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on parle jamais, nous autres, nos tests gynécologiques en ondes, parce que c'est super intrusif?
Ça ne nous intéresse pas.
C'était sa réponse. Ouais. Je suis comme, penses-tu que ton petit pot de sperme m'intéresse? Voilà, là.
Ah non, mais j'ai fait ça, moi aussi. Toute une expérience.
C'était-tu à Lévis, toi?
Chers
non, c'était au CHUL, dans le sous-sol. Non,
bon.
C'était à Lévis. Moi, elle me dit...
C'est quoi que tu avais fourni comme matériel, mon pâte? Hein? Vu qu'on a du temps.
Qu'est-ce qu'ils m'ont fourni comme matériel pour m'alimenter? Oui, il y avait
une
espèce de petit lutrin. Moi, à mon souvenir, il y avait un lutrin avec... c'était plastifié. Rigide, là.
Ouais,
genre de catalogue Sears.
Imagine la personne qui avait à laver ça.
Une espèce de catalogue Sears, peut-être un peu avec quelques trucs, là.
Moi, la médecin.
Pour être tentant, mais.
La médecin, en présence de la personne qui faisait partie de ma vie à ce moment-là, m'a dit, en me parlant de mon spermogramme, que je n'étais pas Starbucks.
Okay.
J'étais comme un peu fâché.
Mais non, mais c'est honnête. Hein? Elle dit une vérité. elle dit quelque chose qui existe.
Ça a touché son égo.
Ben oui, puis Dieu sait qu'il est capable de s'alimenter lui-même. Fait que c'est pas grave, là, ce commentaire-là.
Il pensait qu'il y avait plus d'enfants que non, ça, mais peut-être.
C'était une auditrice, puis je parlais justement que moi aussi, j'allais passer ce test-là.
Une auditrice, oui, l'infirmière?
Elle a dit, non, c'était pas une infirmière, c'était la gynécologue.
Bon, cette femme qui travaille en santé,
la
c'était
mère
une auditrice?
Oui. Elle a dit,
c'est Yann, un gars, là.
Yann, avec tout le respect que je te dois, tu n'es pas Starbucks. Mais je n'avais parlé en nom, c'est qu'elle l'avait entendu.
OK, OK. Ouais, mais ça, c'est plus tough. Parce que souvent, ça arrive qu'eux, ils veulent détendre l'atmosphère, mettons, dans nos tests personnels à nous autres, là, dans notre intimité, puis ils nous disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Il y a des, oh! Y a des gars qui ont fait...
Ça ne me tente pas de te répondre.
Il y a des gars qui ont fait des spermogrammes qui m'écrivent que, au chul, quand tu vas passer ton spermogramme au sous-sol, il n'y a pas de Wi-Fi.
Il n'y a pas de Non, exact.
Faudrait y penser.
J'allais l'ajouter, ça. Oui, commentaire très pertinent.
Non, mais c'est bon de...
Il n'y a pas de réseau dans le sous-sol.
C'est bon de pratiquer votre alimentation mentale.
Hey, exact. Oui.
Tu sais, il y a beaucoup de dépendance maintenant, là. Il faut revenir aux bases.
Absolument. Absolument.
Réfléchir sur des souvenirs, des fantasmes, travailler, messieurs, là.
Non, non.
Pas tout cul dans le bec.
Non, non.
Mais celui qui coupe les petits circuits, là, c'est Mike ici sur Pierre Bertrand. Là.
Oui,
comment il s'appelle,
Mike?
Michel?
Tout le monde Mike.
Parce que je rendais ça sympathique. Ça enlevait la pression quand je disais faut que j'aille voir Mike pour.
mais en fait,
c'est un urologue très, très, très connu ici à Québec là, qui fait quasiment à peu près tous les vasectomies.
Ah ouais.
Oui, on est tous passés chez Mike.
Mike, il vous connaît tous.
Qu'on salue. Je me souviens plus son nom.
Il vous cote.
Parlant de quelque chose qui est Michel. Pire qu'une vasectomie, c'est les rapports d'impôts. On s'en va là-dedans, mon ami.
C'était dur de faire un lien. Hein.
C'est encore le temps.
Tu trouvé bon, par
exemple. C'est encore le temps de prendre des REER. C'est encore le temps de prendre des CELI. Comment ça fonctionne, tout ça? Dans ma tête, là, parce que avant de connaître ça, parce qu'à un moment donné, il a fallu que je me penche là-dessus, là, les REER, les CELI et tout ça, j'étais persuadé que tu devais prendre tes REER avant le 31 décembre.
Ah ouais, hein? Comme j'étais, les autres...
J'étais persuadé de ça. Si tu voulais que ce soit applicable pour ton rapport d'impôt, tu devais prendre tes REER le 31 décembre. C'est pas ça, là.
Non, parce que tu as 60 jours après le 31 décembre.
Exact.
Pour organiser tes flûtes.
Fait qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont pouvoir sauver de l'argent, là.
Bon, ce qu'on appelle la fameuse saison des REER. J'ai toujours détesté ça. Il n'y a pas officiellement de saison des REER. Cette année, on a jusqu'au 3 mars, parce que c'est-à-dire que le 1er mars, ça tombe un samedi.
On me dit que la personne qui fait vasectomie, son nom, c'est Michel Gosselin.
Très bon jeu de mots, mais non, c'est pas...
Non?
Non.
C'est un clown, Yannick. Un autre. T'es pas obligé de couper.
C'est un autre jeu de mots.
Marco dit, c'est peut-être aussi un gars de la base militaire de Valcartier qui s'appelle Docteur Lagosse.
Ça va très bien. Moi, il faut que je ramène ça au REER.
Oui.
Mais vous savez que quand je viens ici faire des chroniques, il n'y a pas grands chroniqueurs financiers qui sont capables d'aller dans tous les sens comme ça. Mais ça me fait toujours plaisir de colorer avec vos sujets loufoques. Mais évidemment, comment qu'on ramène ça? Les REER, 60 jours! 60 jours! On a juste que... Tu sais, les conseillers planificateurs nous diront jusqu'au 28 février, le vendredi.
Ça tire dans tous les sens, hein, mon père.
Parce que le fameux lundi, ce fameux lundi du 3 mars, là, avant minuit, là, ça va être un petit peu désagréable. Puis c'est quoi j'allais dire l'état d'urgence. C'est quoi l'urgence de prendre des REER peut-être avant cette date-là? C'est qu'on va pouvoir appliquer la déduction sur l'année qui vient de se terminer. Fait que souvent, on arrive à une période, tu sais, il y a des travailleurs autonomes, des gens qui ne savent pas trop combien ils vont gagner, puis là, ils savent que depuis le 31 décembre, ils ont fait à peu près tant. Fait que si je prenais tant de REER, ça pourrait me faire terminer avec un revenu après REER qui me donnerait des allocations pour enfants, puis des avantages, puis des crédits peut-être aussi. Donc, d'améliorer la situation fiscale et d'avoir le remboursement d'impôts de trop qu'on a payé dans l'année. On nous le redonne et ce remboursement d'impôts-là, on ne le dépense pas à Cuba. On le réinvestit.
Parce c'est si la façon...
C'est moins sexy, mais c'est vraiment plus intelligent.
Si on ne le réinvestit pas, c'est parce qu'il y a une partie qu'il va falloir payer plus tard à la retraite. Fait qu'il faut réinvestir ce qu'on te laisse. Le but d'un REER, c'est que le gouvernement te laisse de l'argent pour faire de l'argent. Mais le monde ne savent pas quoi faire avec de l'argent. Je m'excuse, là, mais des fois, là, il y en a un qui me demande, il dit, toi, qu'est-ce que tu ferais avec 1 million? Je te donne 1 million. 1 million pour moi, c'est 40 000 par année passif. Puis that's it. 1 million pour moi, c'est 40 000, 50 000 par année. Puis je touche pas mon capital.
T'accotes ça sur le SP500?
Ben oui, ou ben peut-être un peu diversifié, un peu dans différentes affaires. Mais moi, 1 million pour moi, j'augmente mon revenu annuel de 40 000, 50 000 par année sans toucher mon capital.
C'est comme ça que tu vois
ça. Moi, c'est comme ça que je vois ça, de l'argent.
Est-ce que le REER, ça peut te permettre de descendre de braquette?
Ben absolument. Bon, on dit, tu sais, bracket, c'est le terme populaire, mais on parle de taux marginal d'imposition. Tu sais, je le dis souvent sur mon podcast, Financièrement parlant podcast, là, c'est qu'il faut s'arranger pour finir le plus pauvre possible au 31 décembre. Fiscalement pauvre le 31 décembre.
Oui, pas dans vos cas.
Fiscalement pauvre. Comment devenir pauvre? Alors, les prochaines minutes...
Ah, je peux vous donner tellement de conseils là-dessus.
Quand t'es simulateur, tu dis je suis fiscalement pauvre, là, ça pogne pas bien, une première
fiscalement
pauvre.
Fiscalement
pas sur Tinder.
Tu sais, là, c'est comme... C'est bien certain que, par exemple, si tu finis avec... t'as fait 100 000... puis tu mets 25 000 dans ton REER parce que tu as l'espace là, disponible pour l'investir, 25 000 dans le REER, ben, tu vas finir avec 75 000.
Il y a quelqu'un qui dit que si tu peux faire après ça, tu habites encore chez tes parents à 45.
Oui, c'est ça. Ben, l'idée de base, là, c'est de vraiment d'aller chercher une déduction en partant. On nous rembourse l'impôt qu'on a payé au moment où on est imposé plus. Et 30 ans plus tard, quand on va leur sortir, on devrait être imposé moins. Et un REER, par définition, à la retraite, là, ça va sortir sur le long terme. Okay? Ça, ça a toujours été les recommandations que je faisais à la plupart de mes clients. C'est qu'un REER, ça se sort sur du long terme pour jamais contaminer ta fiscalité. C'est avec le CELI que tu vas aller à Vegas ou en croisière. Alors, il y a une combinaison des deux.
Mais pour le REER, quand tu dis qu'on va avoir beaucoup moins d'impôts quand on va sortir plus tard, c'est que nos revenus vont être moindres. Si on est à la retraite, exemple, on a 75 ans, là, on peut décaisser pour justement pas augmenter, dépasser trop de braquettes, mettons.
Bien, en principe, tu sais, comme là, présentement, là, la plupart des gens qui nous entendent, là, autour de 80% des travailleurs, là, sont imposés sur les derniers dollars gagnés là, à 36,12. OK, jusqu'à 90 000, quasiment 100. C'est 36,12 sur les derniers dollars gagnés. Le premier 18 000, je fais des chiffrons pour les comptables, là, des mots pas rigueur. Les premiers 18 000, t'as pas d'impôt. Après ça, ça s'en va en augmentant, comme tu le disais si bien, là, ce qu'on, entre guillemets, les braquettes. C'est un taux marginal d'imposition. Mais il y a du monde qui pense que là, maintenant qu'ils sont rasés à 36,12, ils pensent qu'ils payent 36% d'impôt. C'est pas 36% d'impôt sur tout. C'est 36% sur les derniers dollars gagnés. Si tu fais 100 quelques mille, bien, c'est 42% sur les derniers dollars gagnés. Exact. Or, on prend les REER en fonction de jouer avec ces strates-là. Puis on dit, bien, moi, si je prends 10 000 de REER, je vais peut-être avoir 4 200 de retour. L'autre, il dit, mais c'est drôle, moi, je suis pris 10 000 de REER, puis j'ai eu 2 800 de retour. Bien, c'est parce que tu n'étais pas dans le même taux marginal d'imposition. Les règles empiriques, on dit des fois... En bas de 50 000, ben ça ne sert à rien de prendre des REER. T'sais. La part des gens qui gagnent en bas de 50 000, un dans l'autre, ne payent pas nécessairement beaucoup d'impôts. En fait, ils n'en payent pratiquement pas.
C'est la majorité des gens.
Parce qu'ils payent des charges sociales.
Exact.
Il y a 40 % de la population, soit qui sont à la retraite, ne produisent pas, ne gagnent pas assez. Là-dedans, il y a des plus jeunes, il y a des gens aux études, il y a des gens au chômage, etc. Donc, il n'y a pas vraiment un problème d'impôt là. C'est quoi l'avantage de prendre des REER quand tu ne gagnes pas assez? Bien, c'est parce que tu peux aller chercher des allocations de famille. Parce qu'il y a le gouvernement, va te donner beaucoup d'allocations et beaucoup de crédits après REER. Ton revenu familial déclaré après REER. Moi, il y a une année, ma conjointe était en sans-solde. Puis moi, j'ai dit, tiens, si je prenais un peu d'espace REER que j'ai de lousse pour finir le plus pauvre possible... Fait que le revenu familial était très pauvre. On était des pauvres. On avait le droit à tous les crédits. Dans ce temps-là, il y avait ça à la garderie. Il me semble que oui. En tout cas, on avait le droit à tout. C'était fou, là. Mais tu dis, c'est injuste. Parce que moi, je peux avoir 300 000 dans mon CELI. Je peux avoir 3 millions d'immobilier. Je peux être un multimillionnaire qui bénéficie de tous les crédits parce que le revenu déclaré au 31 décembre, après REER, ben ça a fait qu'on a fini pauvre fiscalement. Et on est allé chercher pour un an après... Toutes les crédits, tout ce qu'on avait le droit.
Quelqu'un qui écoute Pat Raymond actuellement parler des REER, Pat Raymond, c'est un ancien gestionnaire de patrimoine. C'est un gars qui a ses podcasts aussi où tu parles de finances. Tu es un ancien militaire, puis il dit, j'entends Pat, puis j'ai l'impression que je te retarde. J'ai 25 ans, j'aurais pu contribuer depuis quoi, 7 ans, mettons. J'ai 45 ans, ça fait... je suis 25 ans en retard, 27 ans en retard.
Ouais.
Es-tu trop tard pour commencer à prendre des REER? Puis est-ce que je peux reprendre les années que je n'ai pas pris?
Il n'est pas trop tard. Oui, tu peux reprendre les années. Là, on fait de la radio, t'aurais pas aimé ça, avoir juste ça comme réponse, hein? Mais on peut, depuis 91, tous les espaces derrière se cumulent. Là, vous allez sur votre relevé, l'avis de cotisation fédérale de l'année passée, vous appelez à l'Agence du revenu du Canada, bonne chance, ou directement sur le site pour demander un mot de passe puis un code, vous allez avoir par la poste deux semaines après dans une enveloppe, mais bref. Puis vous allez voir c'est quoi l'espace que vous avez disponible pour cotiser à votre REER à ce moment-là. Puis, ben, il n'est jamais trop tard. Est-ce que ça vaut la peine de cotiser un REER? Si vous êtes plus vieux, peut-être de gagner ce que vous pouvez gagner en remboursement d'impôts, puis essayer de faire travailler ça, prendre le remboursement d'impôts, le mettre dans le CELI et dire, ben, au moins les dernières années que je vais travailler, je vais prendre quand même du REER où on va aller, par exemple, dans des régimes enregistrés d'épargne retraite, mais avec le CSN FTQ. Dans des fonds de travailleurs où on va avoir en plus des crédits sur les dernières années de travail, c'est pas si mal.
FTQ, c'est facile de prendre ce fonds-là?
Bien, c'est facile quand c'est possible d'en prendre parce que des fois, ça vient limité.
Exact.
Parce que tu peux pas arriver et dire je veux mettre 5 000, c'est 5 000 maximum. Ouais. Tu peux pas mettre 5 000 d'une traite, tu vas dire oh, c'est peut-être complet cette année. Par contre, on part ce qu'on appelle un PAC, programme d'automatisation, une cotisation automatique, puis tu peux arriver à faire des placements dans le REER. Qui est enregistré avec la FTQ. Donc, tu as les crédits de fonds de travailleurs pour le 5 000 maximum. Ça aussi, c'est intéressant. Mais l'idée, c'est de faire la stratégie pour qu'on prenne des REER. Le retour d'impôt, on le prend, on le met dans le CELI. Ou pour les jeunes familles, on le prend, on le met dans le régime enregistré d'épargne études. Il y en a qui nous écoutaient et qui disent « Vas-tu parler de ça? » Parce que c'est une stratégie.
C'est le REE.
Le REEE. Juste mets un trop. Et après ça, ben, ça va te donner 30 % 20 % fédéral, 10 % de subvention. Fait que là, avec ton même 10 000 de REER dans une situation typique, là, pas pour tout le monde, vérifié, mais c'est à peu près ça pareil, tu mets 10 000, tu as 4 000, tu es rendu à 14 000 de valeur et tu as mis 2 500, exemple, dans le régime épargne-études, tu as 750 de subvention. Fait que là, avec 10 000, je suis rendu quasiment à 15 000. On ne parle même pas de rendement, on ne parle même pas de... Fait que l'idée, souvent, c'est de faire plus d'argent avec le même argent. C'est-à-dire, avec le même 10 000, qu'est-ce que je pourrais
jusqu'où t'es capable
générer?
D'aller.
Qu'est-ce que je pourrais faire comme cascade pour profiter de tous les régimes? Parce que le gouvernement vient nous en chercher beaucoup. Il nous en offre aussi beaucoup.
Mais si tu ne vas pas les chercher, ils ne vont pas venir te cogner. Ils vont pas cogner chez vous.
Non, ils ne viendront pas. Puis en même temps, ce qui est dommage, c'est que les gens qui ont plus de lousse, ils peuvent plus profiter de ces régimes-là. Puis il y en a qui écoutent, puis qui dit, comme quelqu'un qui a commenté tantôt, il dit, ben moi, j'ai peut-être pas, je l'ai pas le 5 000, je l'ai pas le 10 000, je l'ai pas l'argent pour mettre dans le REER, qu'est-ce qu'on fait? On peut-tu emprunter? On peut faire un prêt REER? Des fois, en tout cas, je vais le dire en onde, c'est pas pour tout le monde, c'est peut-être pour un petit pourcentage, mais j'ai déjà dit à un client, parce que pour ce client-là, ça s'adaptait, là, c'est pas pour tout le monde, c'est pas un conseil, allez voir vos professionnels, tu prends 10 000 de REER. Tu as un retour de 4 000, tu claires la carte de crédit de 4 000 avec ton retour. Mais là, tu dis, j'ai pas le 10 000. Tu l'empruntes sur un prêt REER. Les conseillers peuvent faire ça. Donc là, tu dis, au lieu de payer une carte de crédit,
avec un taux d'intérêt
tu vois
élevé.
Pas le bout.
Exact.
Bien là, automatiquement, tu as un paiement sur ton REER, mais ta carte de crédit avec ton retour d'impôt, tu le claires ta carte exact. De crédit.
Bon, moi, j'écoute régulièrement.
C'est une façon de faire.
J'écoute régulièrement tes podcasts de Financièrement parlant.
Oui.
Puis quand tu viens en studio, ben, j'apprends à chaque fois. Ce soir, tu vas être avec nous à 18h
oui.
Dans Mars au soir. Puis on va parler aussi de ce type de sujet-là. Mais pour les gens là, qui sont dans leur voiture, puis là, ils entendent parler de stratégie et tout ça, puis ils n'ont jamais vraiment porté attention à ça, mais ils veulent prendre en charge.
Ouais.
Ils veulent prendre en charge leurs finances. Et est-ce qu'un simple comptable peut dire exactement ce que tu viens de mentionner ou il faut aller chercher un planificateur financier?
Bien, ça dépend c'est quoi l'objectif. T'sais, dans l'ensemble, la plupart de nos professionnels en services financiers sont capables de ce que je viens de dire là, et tout le monde connaît ça, là, sont vraiment capables de maximiser. On appelle ça maximiser puis optimiser. Avec le même montant, qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus? Avec le même argent, parce qu'on a travaillé fort pour le gagner. Et il y a toujours des stratégies possibles. T'sais. Tu peux arriver aussi puis ton REER va te servir pour le régime d'accès à la propriété.
Exact.
T'sais, tu peux emprunter ton REER, pré-REER. T'attends, c'est-tu 90 jours. Après ça, tu vas rechercher ton REER et tu le mets en down payment sur, comment on dit ça, je vais dire en français, en account sur une propriété, peut-être. C'est possible de faire ça aussi. Il y a plusieurs stratégies. Et c'est souvent ce que les gens n'allument pas. Lorsqu'ils vont pas voir de professionnels, ils disent « Mais moi, je fais ça autonome. » Autonome, c'est parfait. C'est une pointe. C'est vraiment l'investissement, le rendement, etc. Mais là, quand on parle de fiscalité, stratégie, optimiser, maximiser, d'aller chercher le maximum avec ce que vous avez le droit, la loi fiscale, puis ça permet de faire ci, faire ça, c'est un professionnel. Monsieur, madame, tout le monde ne peut pas connaître tout
c'est
ça.
C'est souvent
là.
Ça qui stresse les
ça
gens.
Ça change à chaque année.
T'entends la chronique, t'es dans le char, puis là, il y a des stratégies qu'on offre, puis on dit, ouais, mais c'est facile, puis là, toi, t'entends plein de chiffres, tu dis, j'ai jamais été bon en maths. Allez voir des professionnels qui
absolument.
Vont vous aider à sauver de l'argent, puis conserver votre patrimoine qui vous appartient, puis qu'on n'a pas besoin de donner au gouvernement.
On a travaillé fort pour ça.
Ce soir, 18h, t'es avec moi?
Oui.
Donc, j'aurai le plaisir de te chanceux. Retrouver tantôt. Pascal a cette chance.
Vous gardez longtemps.
Ah, ouais. Sarcastique.
Ouais. Elle a cette chance-là 3 heures par jour.
Quelle femme choyée. Exact.
Vraiment. Hein?
Puis des fois, elle se gâte parce qu'elle décide de rester avec moi jusqu'à 18h pour faire des émissions. Mais tu vois, elle me l'a pas offert pour ta présence ce soir.
Mais tu viens de revenir, laisse-moi le temps. Là.
OK.
Tu sais, faut que j'y aille à petite dose pour pas m'écœurer.
Parce qu'il y a de la place.
C'est comme
soir,
dans tout trop de chocolat. Je veux dire, Mané, ça t'écœure.
T'es avec Pascal.
Oh, c'est
moi, je trouve Pascal plus joli que toi. Yann, mais je dis ça, puis je dis rien.
Ça dépend des goûts. Hein.
Ça dépend des goûts.
Et je te comprends.
Ma mère est d'accord,
mais
à part ça.
Mais je suis tellement moins compliqué.
Ah pour bon? Qui? T'es fou! Il reste du temps à cette émission-là? Hey, moi, je pars là-dessus. Ah, il reste du temps.
Padre Raymond, c'est un plaisir. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. On peut écouter tes podcasts financièrement parlant. Puis on se reparle tantôt 18h. Merci d'être
là.
Nous autres, on s'en va en musique, les amis. Puis on va revenir avec un peu de nouvelles avec Pascal. Mais pour l'instant, Fortune Cookie Club avec It's All sur Boulevard.